m'entends pas.
Si, si, tout à fait.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 15 octobre 2011. Nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici votre feuilleton 60s que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end. Entre guillemets, et on n'avait pas chroniqué les BD parce qu'il valait mieux le faire en quatrième vitesse, hein, je pense. À savoir qu'aux éditions Drugstore.
On ne les a pas lus.
On ne les a pas lus, non, non, on Donc a juste le dossier de presse. L'équipe de rêve qui est en fait une. Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geek. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous allez beau, parce que après tout, on est le 15 octobre et ma foi, on a un été indien, ça tombe bien, c'est un petit peu le sujet tout à l'heure, ainsi que après on va parler de 60s et tout ça, on a un programme plutôt tranquille, plutôt pépère, plutôt qui va bouger, je veux dire, ceci dit, on discutait en fait hors antenne, là je meuble en fait, parce que tout simplement Thomas a un petit problème d'oreillette qu'il est en train d'essayer de régler, donc j'espère que là il est bon. Tu es bon?
Oui, la poule, il y a plein de faux contacts. C'est toi qui joues avec
ouais.
La prise, d'accord.
Sinon
merci.
C'est pas drôle. Bonjour, nous sommes en direct, c'est le supplément week-end numéro 292.
Ouais, déjà.
Putain.
Préparez-vous dans 8 émissions, la 300e.
Et avant ça, on sera en direct à Colomiers et on sera en direct au Toulouse Game Show. Et on aura le 12 novembre, normalement, Guillaume Bouzard, auteur de Autobiography of Me, tout, qui est sorti au Roquin Marteau, qui dessine aussi dans de la presse satirique et dans de la gaudriole footballistique, puisqu'il sera à la librairie Gilbert Joseph, donc le 12 novembre, et on l'aura en direct normalement.
Alors attention, on m'a signalé hier que nous serons en trio de Colomiers avec un représentant du peuple ch'ti qui sera en jet spécialement dédié pour couvrir le festival de Colomiers pour notre partenaire actuabd.com. Donc ça va être l'alliance entre le cassoulet et le welsh.
Nom de Dieu, il y a de quoi prendre peur. Et pendant que le Riesling est en train d'arriver sur le plateau, spécialiste de la confiscation de cartes de Pokémon... Sur scène, j'ai l'impression que le match n'a pas été super.
Non,
je sais pas, mais là,
je crois que c'est. On peut même dire que c'était assez moche.
Oh, ouais, il y a les. Oula.
Il se passe des choses hors antenne.
Il se passe des choses, voilà.
Non, mais il l'a déjà lu.
Il l'a déjà lu, voilà. Voilà, il y a environ 1400 pages de bouquins qui s'empilent. Sachant que moi, j'en ai 3000 à lire. Hein, ouais.
Ah non, mais là, j'en ai pour un mois, là.
Sabu et Ichi, oui, puisque tu restes dans le Shotaro Ishinomori, si je me trompe. Et j'ai une biographie prochainement que je vais chroniquer de Osamu Tezuka. Autobiographie remontée à partir de...
Of me, four.
On veut. En fait, c'est une autobiographie qui est remontée à partir de ces différents textes. Et j'ai encore une autobiographie, mais cette fois-ci de Francis Grou. Ça tombe bien puisqu'on parlait de festival, sauf que lui, c'est l'actuel patron, si je puis dire, du festival de la bande dessinée internationale à Angoulême. Ça fait partie des choses. Bref, inutile de vous dire, on a un programme qui va être bon, qui va être costaud et tout ça. Et déjà, rien qu'à l'émission d'aujourd'hui, et j'ai manqué de jeter mon stylo à l'autre bout du plateau, comme d'hab.
T'as essayé d'atteindre du sport.
Non, mais j'essaie de donner du mouvement et tout ça. Tu sais, je parle un petit peu à l'italienne avec les mains là et tout ça, mais j'ai complètement oublié que nous n'avons pas payé la redevance couleur et que donc il n'y a pas d'image pour cette émission.
Et pour cette émission, mais peut-être pour des prochaines.
Oui, qui sait.
Ça va, on a suffisamment meublé. 12h, 5 minutes et 25 secondes. Ouais, c'est bon. Va commencer les sorties bande dessinée avec plus exactement un artbook, si je me trompe. Avec
oui.
Un artbook, ma foi, ouais.
Ouais.
Ah ouais.
Oui, oui, ce sont des filles à demi dénudées, oui. Ouais. À gros seins.
À demi dénudées, Xelor, pas tant que ça, mais bon.
Oui, c'est vrai.
Bon, bienvenue dans l'univers médiéval fantastique de Wakfu.
Voilà, Wakfu, Dofus et consorts, donc c'est l'univers d'Ankama, et c'est ni plus ni moins que le caractère designer d'Ankama qui s'appelle Xa, donc de son vrai nom. Voilà, de son vrai nom Xavier Houssin, qui est depuis quelques années chez Ankama, qui a démarré dans le développement de jeux, dans Flash, dans plein de petits des à côté, mais pas vraiment, il n'est pas rentré vraiment pour faire de l'illustration pur jus, et c'est par la force des choses qu'il s'est retrouvé aux commandes de l'univers visuel de ce qui était au départ Dofus et qui est devenu ensuite le jeu Wakfu et également la série animée Wakfu, puisque c'est lui qui a fait le caractère design des personnages. Il a aussi démarré dans les pictogrammes pour le jeu, donc ça, cet artbook est divisé en plusieurs parties, donc ça commence par des illustrations personnelles qui n'ont rien à voir avec Ankama, ensuite Dofus, les illustrations pour le jeu, le MMORPG Wakfu, l'animé Wakfu, des pictos, des esquisses. Alors les esquisses, laisse tomber, c'est comme des illustrations.
Oui, c'est... qualité, voilà. Ok, d'accord.
Et ça finit par une rubrique fan art, diverses illustrations qu'il a faites pour d'autres bouquins de Ankama, mais aussi pour des concours de fan art, puisqu'on voit qu'il est très très passionné par tout l'univers graphique de Capcom, donc il a fait pas mal de fan art pour la série des Darkstalkers. Il a aussi fait pas mal d'autres pour d'autres artistes et donc c'est quelqu'un qui travaille essentiellement d'abord sur Flash puis sur le logiciel Paint Toolsai que je ne connaissais pas. Pourquoi
ça
Flash?
Ça a rien à voir avec le Paint de Corel alors.
Non, pas du tout. D'ailleurs, ça s'appelle Painter.
Painter, pardon. Oh putain, Paint c'est Microsoft.
Voilà. Et Xa en fait donc pourquoi est-ce qu'il travaille sur Flash? Parce que vous allez me dire, Flash c'est plutôt pour de l'animation et pas trop à la base pour l'illustration. Parce qu'en fait, il explique, parce qu'il y a des paragraphes d'intro pour chaque partie où il explique son travail, comment il en est arrivé à faire des compositions pareilles, etc. Et il explique que Flash, ce n'est plus ni moins qu'un logiciel idéal pour harmoniser les styles graphiques de plusieurs personnes, de plusieurs artistes, puisqu'il explique que lui, il est arrivé pour harmoniser le tout et faire la bible graphique. Mais
d'accord. Donc en fait, il était un petit peu le directeur éditorial, le character designer, quoi.
C'est le character designer en chef, sachant que d'autres graphistes ont travaillé aussi sur la création de personnages quand l'univers de Dofus était assez balbutiement. Et il explique que justement, il rend hommage aux autres membres de la team créa, qu'il disait que, eh bien, lui est arrivé pour harmoniser, mais il y avait déjà des chevelures, des éléments graphiques qui avaient déjà été posés avant qu'il arrive, et il a repris pêle-mêle, à droite à gauche, certains détails qui avaient été imaginés par d'autres. Donc Flash, il disait que c'est un bon moyen pour que d'autres illustrateurs se fondent dans son univers à lui pour harmoniser. Alors après, ça c'est sûr que...
Je pensais que ça, tu le faisais plus, tu vois, avec le dessin, l'outil de dessin du même éditeur de l'époque, hein, Dreamweaver, qui avait fait un outil de dessin vectoriel qui était très bien. J'ai oublié le nom.
Je ne me rappelle pas. Mais en tout cas...
Enfin, maintenant, il est oublié, hein, puisque Adobe a racheté Dreamweaver et a fait oublier le truc. Je crois que c'est pas directeur, je sais plus. Enfin bon, tant pis, continuons.
Voilà. En tout cas, Flash, c'est un logiciel, donc pour les non-initiés, qui est un logiciel de vectorisation, du dessin de vectorisé. Donc c'est... vous pouvez zoomer autant que vous voulez, il n'y aura jamais de pixels, c'est du vectorisé. Et donc, que vous ayez n'importe quel pad graphique, ce logiciel commun permet d'harmoniser les
les techniques. Ensuite, on a, bon, alors pour caractériser un petit peu l'univers visuel de Xa, c'est plutôt un univers de pin-up à gros seins où il dit s'éclater effectivement à dessiner des nanas, puisqu'on le voit, ses illustrations personnelles, quand il n'a pas d'obligation, c'est essentiellement des nanas. Ensuite, il y a aussi des guerriers, puisqu'il y a aussi des personnages masculins, mais voilà, les nanas se caractérisent par leur forme généreuse et par des grosses jambes et des gros pieds. Et ça, c'est un style graphique.
Ouais, c'est vrai que c'est rare en général, hein, que quand on fait qu'un dessinateur décide de mettre des gros pieds à ses filles.
Oui. Mais en fait, là,
ça se comprend et ça se suit en plus, hein, dans justement ce qu'il exprime.
Et il explique aussi par rapport à ses influences, puisque l'illustrateur sud-coréen Yoon Tae Kim, qui est le designer de la série. J'ai oublié, donc je suis désolé. Donc c'est un dessinateur sud-coréen qui est très connu et qui est plutôt connu pour la sensualité de ses personnages féminins et l'extrême élégance de ses costumes. Donc l'a fortement influencé, ainsi que tout l'univers graphique de Capcom avec tous les Street Fighter, des illustrateurs comme Shinkiro par exemple, et également l'univers graphique.
Faut se méfier, hein, si on dit que c'est sexe les pieds, on va avoir une alerte du CSA. Attention, vous allez exciter un ministre.
Voilà. Donc ensuite, il donne, j'en finirai là-dessus, pas mal d'informations sur pourquoi il compose des illustrations de cette façon. Il dit qu'il passe énormément de temps à trouver la composition, comment on se place tel membre par rapport à d'autres.
C'est impressionnant le travail sur les postures et tout ça. Hein.
Voilà.
Ça, j'allais le dire justement.
Et alors, il disait, il cadre de cette façon-là, puisqu'à la base, ces illustrations servaient à illustrer des cartes de sort et des présentations de personnages, puisqu'il faut pas oublier que c'est un jeu vidéo. Donc il fallait que les personnages soient de plein pied et que leur pose permette de les mettre en valeur et aussi de mettre en valeur leurs accessoires. Donc voilà, c'est tout un background qu'il explique de façon très très simple et très pédagogique. Et de façon, ce recueil d'illustrations était attendu par beaucoup de ses fans, puisque c'est lui tout simplement qui est derrière l'univers graphique d'Ankama, même si Ancestral Z a mis sa patte sur tout l'univers, on va dire, manga, donc plus moins mainstream, beaucoup plus second degré, beaucoup plus blague série Z dans tous les sens. Mais c'est vrai que l'univers, on va dire, numéro 1 qui s'adresse à un plus grand nombre, c'est Xa. Donc voilà, donc Xa, ça s'appelle Xa Colors. Un artbook avec une couverture superbe en vernis sélectif, c'est chez Café Salink, et je crois pas me tromper en disant que pour un artbook, le prix est vraiment abordable. On n'est pas.
On va dire qu'effectivement, il est relativement correct, sachant que bon, hein, c'est pas comme le artbook qui était sorti.
Magnifique 9,
donc c'est pas de l'humanitaire, etc. Donc évidemment, l'artiste est un petit peu rémunéré dessus. Je dirais que les prix sont tout à fait corrects. L'impression est franchement bonne. Je dirais peut-être que c'est de l'Epta, je ne suis pas sûr. Après, les couleurs pètent vraiment et rendent vraiment justice à sa palette. Il a vraiment une palette qui est extrêmement travaillée, saturée, mais justement assez riche en tons.
Oui, puisque c'est un univers chatoyant, voilà. C'est du jeu vidéo, ça doit donner envie, ça explose dans tous les sens,
mais
c'est un univers qui est basé sur l'humour aussi, donc
voilà.
C'est très positif.
Mais on a du vert jaune, alors sachant que c'est du travail en flash, donc dans l'univers ce qu'on appelle du RGB, c'est-à-dire prévu pour un écran, et en imprimerie on n'a pas du tout le même rendu de couleur, etc. Je me demande comment justement ces couleurs ont été rendues finalement entre l'écran et l'impression, mais je pense qu'il y a que justement le rendu du artbook rend justice à ce travail-là, quoi, je veux dire. Duce, va-t-il nous parler d'autre chose, de toile et de tout le reste ? Ah oui, non, mais tu le feras après, ça. Je te rassure.
Ouais. Bah, c'est bien de me prendre comme ça, carrément, au débeauté. Hein,
ah,
ça.
Je t'avais dit que ce serait
ça
sur les débuts.
Ça fait toujours plaisir. Ouais, non, t'as raison. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, un match de rugby, ça dure quand même que 80 minutes. Il y a eu quelques petites minutes de prolongation, mais bon.
C'était pour prolonger le plaisir.
Non, mais c'était un petit peu décalé, je sais pas quoi. Mais enfin, ça a permis à la chaîne qui diffusait le match de pouvoir passer plein de pubs avant le match, pendant la...
Et pendant les hymnes nationaux.
Et pour recueillir les inévitables analyses de Sébastien Chabal.
Non, ça j'ai pas vu.
Non, t'as pas vu, t'es barré direct.
Non. Déjà, il est sérieux sur ses appuis 50 fois pendant le match de la part de Christian Jean-Pierre.
Ah
déjà,
oui.
je m'étais dit, on l'a plus au foot, c'est déjà cool, quoi. Mais bon, on se retrouve
sérieux au rugby. Sérieux sur ses appuis.
Oh là 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 là. Non. Bon, on va arrêter un petit peu. Parlons un petit peu de Spider-Man.
Rien à voir, donc.
Non. Ah oui, absolument. Avec conjointement, c'est paru ce mois-ci, donc mois d'octobre, déjà le numéro en kiosque classique, c'est donc le numéro 141. Et une semaine avant, presque une semaine avant, hein, c'est-à-dire vraiment au début du mois d'octobre, est paru un hors-série Spider-Man. Là, on en est au numéro 35, ouais, c'est ça. Avec bien donc le but des hors-série, c'est de vous raconter une histoire complète qui souvent n'a plus ou moins rien à voir avec l'arc narratif qui est déroulé, qui est publié au fur et à mesure des parutions mensuelles de Spider-Man dans la collection Panini, donc en close. Alors d'un seul coup, j'ai plus qu'un truc, plus qu'une oreille, mais enfin bon, ça c'est normal, c'est
aussi,
la technique.
Je suis désolé, on va essayer de
d'arranger ça.
Un problème technique.
Ouais. Pourtant, on a rien touché. Là, ça va mieux, ça va mieux. Donc, j'en étais à l'arc narratif commençait depuis vachement longtemps, quoi. Depuis 141, depuis le numéro 100, en fait. Plus exactement, le numéro 102. Hein, parce que le numéro 100, c'était un petit peu un numéro spécial, on va dire, anniversaire, enfin du moins pour l'édition française. Et c'était plus ou moins un mélange entre... c'était une récapitulation, en fait, de ce qui s'était passé avant et de ce qui allait devenir eh bien ce nouvel arc, c'est-à-dire le Brand New Day dont je vous ai déjà souvent parlé. Et là, en fait, on arrive à la fin, dans l'instant crucial numéro 2 du mois d'octobre de Spider-Man. On arrive donc à la fin avec bien ce face à face et cette espèce de c'est un face à face entre les deux personnages Spider-Man Peter Parker et Mary Jane Watson, parce que si on récapitule, alors là je sais que c'est un petit peu roboratif chaque fois je le refais, mais enfin bon, il n'y a pas des gens qui écoutent systématiquement l'émission chaque semaine, voire chaque fois que j'en parle, donc vite fait Spider-Man à la fin de Civil War qui a opposé donc les super-héros, ceux qui étaient pour bien
les pro-gouvernementaux et les
pro-gouvernementaux
et les sales PD de nazis rouges, les anarchistes,
les terroristes, avec à leur tête Captain America. Et d'ailleurs à la fin de Civil War, Captain America se fait descendre, se fait tuer. On accuse Tony Stark. Enfin bon, c'est le gros bordel. Ça c'est pour remettre un petit peu les choses au point pour les gens qui disent Captain America, ouais, c'est un sacré facho, il défend l'Amérique. Alors Captain America, il dit toujours non, je ne défends pas le gouvernement américain, je défends le peuple américain. Ouais. Vas-y Steve. Alors, on n'en est pas à Captain America. Donc à la fin de Civil War, il y avait le choix. Donc c'était la fameuse loi sur le recensement, et donc tous les super-héros devaient aller se faire recenser et de ce fait, révéler leur identité civile. Et si pour certains super-héros ça n'a jamais posé de problème, on va dire Tony Stark, et d'autres comme ça, super-héros majeurs, pour Spider-Man ça la foutait quand même un petit peu mal. Et à l'intérieur de l'histoire, par rapport à l'historique de Superman, mais également pour de nombreux lecteurs qui se disaient non, la narration est scénaristiquement parlant, il y a cette espèce de dualité et cette espèce d'identité secrète qui est quand même très importante dans le cursus de Spider-Man. Vous n'allez pas me contredire à ce sujet-là.
Loin
quoi.
De là.
C'est vraiment, quelque chose qui revient pratiquement à chaque numéro. Et Spider-Man, vraiment, comme c'est un des super-héros les plus emblématiques dans la galaxie Marvel, Peter Parker franchit le pas et donc décide de se dévoiler, de dire voilà, Spider-Man c'est moi, et puis il le fait en civil, en public, avec toute la presse. Mais ce qui se passe, c'est que les grands ennemis de Spider-Man, et surtout un des ennemis de Spider-Man, mais également surtout plus de Daredevil, qui est celui qui a la main mise sur New York, le Kaïd, décide de s'attaquer à Spider-Man. Mais manque de bol, il le loupe et c'est Tante May qui prend la balle. Et Tante May va mourir, est à l'hôpital. Et il y a l'instant crucial justement, dont il est question dans le numéro du mois de septembre et dans ce numéro, à savoir, eh bien, Tante May est pratiquement morte, et bon, ben, on sait dans le premier numéro, dans la première partie de l'Instant Crucial, qu'à la fin du premier numéro, donc du mois dernier, on sait que bon, ben, Peter Parker, en lui faisant un massage cardiaque, arrive à la ranimer. Mais seulement, il s'est passé d'autres choses un petit peu plus occultes. Et dont eh bien parce que
tu vas y arriver, oui.
Non. Dont la partie cachée de cet acte médical qu'accomplit Peter Parker alors qu'il a jamais fait de médecine que dalle, et pourtant avec la première fois qu'il fait un massage cardiaque, il arrive à ranimer une nana qui a été presque dégommée par balle. Donc on se pose une question. Oui, mais la partie occulte, c'est que bon, avant de pratiquer cet acte et tout, il est allé voir ses potes, il est allé voir Reed Richards, c'est-à-dire les scientifiques, il est allé voir Tony Stark, il est allé voir Doctor Strange pour essayer de ranimer Tante May en disant ouais, je ferai tout ce que je voulais, il y a pas de problème et tout, je donnerai ma vie, enfin bon, bref quoi, c'est à cause de moi qu'elle est morte, enfin bon, voilà quoi, c'est et bon bah il se passe quand même des choses un petit peu bizarres parce que Mary Jane Watson est dans la confidence. Mary Jane Watson est une des seules à savoir, avant ce qui arrive à Tante May, que Spider-Man et Peter Parker, même avant le dévoilement de Spider-Man et Peter Parker à la fin de Civil War. Et donc, en fait, il y a un pacte qui est passé avec Mephisto, avec le diable, pour que, eh bien, tout le monde oublie ce qui se passe pour ranimer Tante May. D'accord, ok, on ranime Tante May. Tante May ne mourra pas. Oui, mais tout le monde va oublier que Peter Parker est Spider-Man. Sauf Mary Jane Watson.
Mais pourquoi donc ?
À la suite de ceci, Mary Jane Watson disparaît du paysage de Spider-Man, émigre sur la côte ouest, parce que avant elle était plus ou moins mannequin. Eh bien, elle décide de franchir le pas et devenir une vedette du grand écran, une actrice relativement connue et tout, qui a des petites amourettes avec des jeunes premiers sur la côte ouest du côté de Los Angeles. Donc, Mary Jane Watson... Jane Watson out, mais Mary Jane Watson au bout d'un certain moment revient du côté de New York parce que bon, elle commence à en avoir marre de la vie artificielle de Los Angeles, et arrive donc ce moment où ils se retrouvent tous les deux, parce que entre temps Spider-Man est passé à travers plusieurs arcs narratifs, dont celui du tueur au traceur, où elle fait la connaissance de Carly Cooper, qui fait partie de l'équipe du CSI New York, c'est-à-dire celle qui est chargée de... Bon, vous voyez ce que je veux dire,
c'est pas le gros de le retrouver, ouais.
Du CSI New York pour justement essayer de retrouver des preuves par rapport au tueur et traceur. Bon, ils arrivent, et puis bon, lui en tant que Peter Parker, bon il va essayer d'être un petit peu copain avec elle. Il la kiffe bien, mais sans plus quoi. Et bon, Peter Parker reste toujours dans son identité d'adolescent un petit peu timide, qui a du mal avec les femmes, qui commet des bévues, et qui en plus, vu sa double identité, eh bien chaque fois qu'il a un rancard, au dernier moment, bien sûr, il y a le lézard qui est en train de péter une banque, il y a Electro qui veut de nouveau sauver les gens qui sont emprisonnés, donc il est obligé de reprendre son identité de Spider-Man, et donc ses rancards, il se casse la gueule, lamentablement. Bref, sa vie amoureuse, généralement, c'est assez la cata, on va dire, parce que bon, d'une part c'est un bonnet quoi, il sait pas trop y faire, et d'autre part bon il a d'autres occupations au moment crucial où il pourrait peut-être conclure bon entre guillemets, bien sûr ça reste quand même Spider-Man. Et dans ce numéro 2, eh bien Spider-Man Peter Parker eh bien va apprendre ce qui s'est vraiment passé, ce que Mary Jane Watson, à ce moment crucial justement quoi, où Spider-Man conclut le pacte avec Mephisto, mais Mary Jane Watson parle également avec Mephisto. Mais seulement, Peter Parker ne sait pas ce qu'il a dit. Et là, bien, okay, on apprend ce que Mary Jane Watson a vraiment dit à Peter Parker. Et alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, on sent que c'est un arc qui se termine. Il y a plein de flashbacks, bien entendu. Et il y a également aussi pour la partie un petit peu plus rigolote, hein, parce que bon, ça se conclut par un truc vraiment très sympa, une petite fête comme ça, très très tranquille. Mary Jane Watson et Peter Parker, qui ont toujours été plus ou moins secrètement amoureux, Mary Jane Watson a toujours été, même quand Peter Parker au départ était avec Gwen Stacy, déjà Mary Jane Watson était secrètement amoureuse de Peter Parker. Quand Gwen Stacy meurt, eh bien c'est Mary Jane qui le remplace. Bon bah il se passe ce qui se passe, ils sont ensemble, mais Mary Jane se casse hein, au bout d'un moment à Los Angeles. Elle revient, est-ce que ça va de nouveau être pareil, est-ce qu'ils vont franchir le pas à nouveau et tout? Non, ils se disent bon, peut-être que non, peut-être que oui et tout. avoir cette image en double page, on jurerait que c'est reparti de plus belle. Regarde-moi ça, Thomas, quoi, si c'est pas magnifique.
Oh là là.
Et ça, c'est du roulage de palo. J'en veux. Et il n'y a pas de problème. Mais, bon, bah, ok.
C'est du fougueux du passionnel.
C'est du fougueux du passionnel. En fait, Mary Jane Watson connaît, Carly Cooper. Sait très bien que Peter Parker veut être, copain avec Carly Cooper. Donc, elle ne lui met pas de bâton dans les roues. Hein, et, va carrément dire à Peter Parker, bon, bah, ok, tu peux y aller, vas-y. Et donc, on a donc cette dernière image qui est la fin vraiment de ce grand arc qui a duré 41 numéros.
J'adore la tenue.
Enfin, ouais, parce que elle est, et ils sont là, la tenue s'explique parce qu'ils font une fête, si tu veux, quoi, où ils doivent être déguisés. Ok, et elle s'est déguisée en
Wonder Woman.
Non, c'est Black Cat.
Non, Catwoman, ouais.
Non, c'est Black Cat, oui. C'est Black Cat dans la mythologie Spider-Man, c'est Black Cat.
Pardon, excuse-moi.
Voilà.
Et oh là là, je suis mal réveillé.
Ouais, t'es pas le seul, hein. En fait, pas, t'es pas le seul. Et donc, on en arrive à cette belle scène d'amour à la fin. C'est beau, c'est magnifique,
enfin,
et tout.
Scène d'amour, attention, ne leurrons pas nos auditeurs. Ce n'est pas de l'amour dans un lit. C'est une scène
Non, c'est
du
baiser
flirt.
Fougueux,
du
passionné.
Du flirt, voilà.
Wow, enfin, c'est quand même, bon, ça va, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas mal. Alors, il y a plein de petits détails qui fourmillent, plein de petites références qui fourmillent et qui sont assez incompréhensibles. Si vous n'achetez que l'instant crucial numéro 2. Pourquoi ? Parce que dans le Spider-Man hors série,
attention, suivez bien,
il y a une histoire complète, et une histoire complète qui, elle, est un peu plus rough, plus dure quand même, car elle concerne Lily Hollister, l'ex-amie de Norman Osborn, qui a donc eu un enfant avec, en principe, Harry Osborn. Mais Harry Osborn, au bout d'un moment, il faut remonter quelques épisodes en arrière, se rend compte qu'il a été berné, qu'en fait, c'est son père qui a enfanté l'enfant, parce que Lily Hollister, eh bien, est allée dans le labo de Norman Osborn, a chopé un petit peu de sérum du bouffon, et donc est devenue un bouffon. Et à une certaine époque, vers le numéro 120-125, eh bien, on voit apparaître un bouffon, pas vert, mais gris. Et on se dit, merde, putain, il y en a encore un autre, alors que Norman Osborn, on sait très bien où il est. Harry Osborn, il a coupé les ponts, il est du bon côté. Donc, c'est qui encore ce nouveau bouffon? En fait, c'est Lily Hollister qui, bon, bah, ok, elle a bouffé le sérum, donc elle se transforme en menace. Hein, on se rappelle donc de cette super vilaine qui avait fait, qui avait embêté Peter Parker pendant plusieurs numéros.
Pas mal de numéros. Embêté, hein.
Voilà. Mais bon, Norman Osborn est en prison, hein, parce que bon, après l'histoire de siège et tout, les Thunderbolts qui ont massacré pas mal de personnes, il y a eu des centaines de morts parmi la population civile, on l'a foutu au trou. Et Harry, lui, bah, il a décidé de tourner la page, de se barrer. Ok, on va un petit peu disparaître du paysage. Sauf que, eh bien, il y a encore ce bébé et Lily qui fait son retour avec ce bébé. Mais ce bébé va être convoité par pratiquement l'ensemble des super-héros que connaît Spider-Man. Le Kaïd, c'est lui qui en fait téléguide un petit peu, quoi, tous les autres super-vilains tels que Electro, on a l'Homme Sable, enfin bon, on a là toute une tripotée, hein. Tous plus Mister Négative également, vous pouvez les voir là, quoi. Qui essaye justement de choper le bébé. Pourquoi, on sait pas trop pour l'instant, quoi. Hein, vraiment, on sait pas trop. Et quand il s'agit de petits gosses et tout, bon bah alors c'est Spider-Man bien sûr qui se coltine tout le truc et tout. Alors tu le vois avec le bébé dans les bras, en train de se balancer entre les immeubles avec en lançant de la toile et tout.
Très hard-boiled-esque, on va dire.
Ouais, c'est vraiment hard-boiled à fond les manettes. Et ça se termine un petit peu durement, on va dire. Bon, le bébé survit, je vous rassure, hein, c'est pas de problème quand même, quoi, hein, c'est Spider-Man, quoi, c'est les ricains, quoi. Mais par contre, bon, ok, il va quand même y avoir quelques j'allais oublier le Docteur Octopus, bien sûr, qui est pratiquement omniprésent. Au départ, on croit que c'est Docteur Octopus qui est derrière tout ça, mais en fait c'est pas vrai, c'est pas exactement ça et tout. Il est également téléguidé par quelqu'un d'autre, quoi. Donc, ça nous fait un numéro assez intéressant et ça permet justement de dévoiler pas mal de petites choses parce que ça rétablit un petit peu la vérité. Et en fait, à la fin de ce numéro, on se rend compte que c'est quand même Harry, le papa. Et c'est, en fait, un motif tout à fait scénaristique. Hein, ça, bon, il faut le dire. Pour permettre à Harry Osborn de disparaître un petit peu de la galaxie Spider-Man, pour le prochain arc à venir, parce que ben tout simplement Harry dit ouais je vais retourner en Europe, parce qu'on se rappelle que il y a pas mal de temps, dans la fin des années 90, début des années 2000, Harry Osborn, qui était complètement camé à mort et tout, avait disparu de la circulation. On croyait qu'il était mort. En fait, c'est son père qui l'avait emmené en Europe pour se faire désintoxiquer. Il était revenu, il avait une vie tranquille, sage et tout. Et à un moment, avec sa nouvelle copine, eh bien, il essaye d'empêcher un braquage et il se fait descendre. Donc, il meurt en héros, en fait. C'est-à-dire, on trouve, scénaristiquement parlant, une fin honorable pour sa sortie, pour dire bon, ok, on va le laisser de côté, pareil, donc on le dégage, quoi. Bon, voilà. Bon, sauf qu'il revient un petit peu plus tard, bien entendu. Et là, bien, Harry fait la même chose, mais seulement, ben, avec un motif tout à fait avouable. Non, je vais élever mon bébé loin loin du bordel de la ville de New York, des super-héros, des super-vilains, de l'influence néfaste de mon père et tout. Donc, je me barre de nouveau en Europe. Et voilà. Ça nous fait quand même un numéro qui est assez intéressant, parce que retrouver autant de super vilains dans un numéro, bon bah c'est quand même assez rare, hein, ça il faut le souligner, quoi, les 3-4 dernières années, bon bah c'était pratiquement un super vilain, voire un et demi par magazine, peut-être des fois en deux parties sur deux mois, mais guère plus. Alors que là, bon bah ok, vous avez vraiment pour votre argent, si vous voulez, du dégommage avec tous les super vilains qui est à l'intérieur. Donc c'est le Spider-Man hors série qui est sorti donc ce mois-ci, hein, en octobre, et également donc surtout, hein, l'instant crucial numéro 2, sous-titré Les réponses à toutes vos questions, paru également en ce moment même chez Panini. Un petit mot, on en avait déjà parlé.
On a la régie pub qui me fait chier parce qu'il est midi 31.
On en avait déjà parlé, mais un petit mot, mais ça se précise, hein, parce on approche de la fin de l'année. Et il faut savoir qu'il va y avoir une redistribution, on en reparlera bien sûr au début de l'année prochaine, de la part des magazines concernant les super-héros Marvel, même les DC, hein, d'ailleurs, parce que Panini a encore les droits jusqu'à la fin de l'année.
Oui, tout à fait. Hein. Ouais.
Après, ça va être Delcourt, ça va être Dargo.
Non, c'est Dargo. C'est le groupe Dargo qui a monté Urban Comics.
Delcourt a également repris, mais plus pour en librairie, on va dire, plus les sorties librairie que les sorties kiosque.
Ah bon.
Mais ils ne s'interdisent pas de faire du kiosque également.
Je t'avoue que j'ai pas complètement tous les détails. On va essayer d'avoir des infos d'une manière précise. Ce sera l'occasion d'une spéciale, je pense.
Je te passerai le gros article que j'ai lu dessus et tout. Tu verras. C'est assez complexe. C'est très complexe. Hein.
Ce serait plus drôle si on avait la responsable des droits au téléphone, hein?
Ouais, mais il y en a plusieurs. C'est ça qui est bon. Si, on sait pas trop. Parce que Panini a envie de rester sur le marché, quoi. Donc ça va être un petit peu complexe. Hein, mais on a
on
encore un ou deux mois pour vous expliquer ça en détail.
12h32. Vous savez ce que c'est ce printemps? Cet automne, pardon.
Du printemps? Cet automne,
je sais pas, c'est l'automne d'avril, puisqu'il y a le printemps septembre.
Ouais, mais c'est aussi les 30 ans de la radio.
Ah merde, c'est vrai.
FMR fête ses 30 ans au Bikini le samedi 5 novembre. Du ukulélé, du rock, du punk, de l'électro, de la jungle, de la drum and bass, 10 groupes, 10 euros. Ouverture des portes un peu avant 19h avec par ordre d'apparition les Lélé, Wild Woman and the Savages, Charlie Fiasco. Légitime défense également, premier concert de reformation, Wang for Peace, La Phase, The Esser et Denshu Kozo, Lipitron, DJ Lady and MC Two Tone et le Lutin. Le samedi 5 novembre au Bikini, 10€, réservation sur le site du Bikini. FMR fête ses 30 ans, le 5 novembre, Bikini, 10 groupes, 10 euros.
FMR, 30 ans ferme, toujours libre.
FMR.
Je crois que tu... c'est franchement all-star, hein, quand même, le planning apparemment au Bikini. Je crois que tu avais dit Avengers...
De l'Avengers.
Ah merde, oui, c'est vrai. C'est vrai, on en a pas fini avec Marvel, avec les grandes sagas. Donc cette collection en 10 tomes, en 10 numéros, c'est le
pour
numéro
une fois,
9.
C'est pas moi qui oublie.
c'est le numéro 9. Alors le principe est simple, hein, c'est de vous proposer dans une édition souple mais néanmoins luxueuse eh bien des histoires complètes, des arcs narratifs complets. Alors ça fait quand même du 140 pages, hein, donc c'est pas mal. Ça coûte pas trop cher, ça coûte moins de 10 euros. Et ça permet bien à ceux qui sont en train de tomber dedans ben, de découvrir d'anciennes histoires, des histoires qui sont des histoires qui sont devenues mythiques dans l'histoire de certains personnages ou dans de certains groupes, puisque là ce numéro 9 est consacré aux Vengeurs.
Voir donc, des traitements qui ont fait la notoriété d'un scénariste ou d'un dessinateur.
Tout à fait.
Oui, tant que tu parles des Avengers, à signaler que la première bande-annonce du film de Joss Whedon est déjà disponible et sortie cette semaine.
Voilà, et puis bon, on en apprend pas trop, hein. C'est un peu light quoi pour l'instant. Hein, mais bon, c'est Joss Whedon alors.
Ouais.
Il y a pas de problème. Et puis il y aura Nathan Fillion dedans quoi. Ne serait-ce que pour une caméo.
Et je crois c'est pas lui qui fait Œil de Faucon ou non, c'est pas lui.
Non, je crois pas. Non.
Ah non, je comprends.
Alors ce Vengeur donc, ou Avengers en anglais si vous préférez, est un excellent cru parce que eh bien ça date de 1999 et c'est scénarisé par Kurt Busiek pour la plupart des textes et un petit peu Douglas Noble, et au dessin on a Georges Pérez et Stuart Timonen qui nous fait juste le prélude, c'est-à-dire la première partie, la première histoire. Mais par contre eh bien ça vaut vraiment le coup parce que ces Vengeurs là ont affaire avec un des méchants les plus terribles qui aient existé, qui plus est a été créé par un Vengeur.
Oh là là,
Ultron. Eh oui, cette espèce de d'entité complètement mécanique qui a été créée par Hank Pym, donc un des fondateurs. Hein,
donc Hank, c'est l'homme, c'est pas l'homme.
C'est Giant Man.
C'est Giant Man, voilà.
Voilà,
sortait avec la fourmi,
avec la guêpe.
La fourmi, oui.
J'allais dire la fourmi, oui. Non, c'est la guêpe.
Non.
c'est marrant, j'aurais plutôt vu Richards, The Usual Suspect, dans ce genre de création qui fout la merde. Mais...
Non, parce que si tu veux... Red Richards qui fait également partie des Vengeurs, hein. Alors les Vengeurs historiques, quoi, ils sont pas si nombreux que ça. Quand on va dire, il y a Thor, il y a Iron Man, il y a Captain America, il y a Hulk, mais pour quelques numéros parce qu'il était instable, donc ils l'ont viré.
Trop fait. Ingérable.
Ouais.
Donc, écoute, tu fous le bordel.
C'est
là,
pas
ça
la
va,
peine.
Quoi. Donc, on est un groupe sérieux.
Il est joué trop perso et vous voulez pas tirer les coups francs.
Ouais, et puis il y avait déjà l'élément instable en la personne de Wolverine. Qui,
merde!
Oui, quand il était pas avec l'X-Men, il était également avec les Vengeurs.
C'est con!
C'est un des seuls X-Men qui fait partie des Vengeurs, enfin, les premiers Vengeurs. Là, on est en 99, donc, eh bien, on retrouve parmi les personnages historiques Captain America, Iron Man et Thor. Bon, si on publie cette histoire, c'est pas par hasard, en fait. C'est, si je vous cite ces trois-là, c'est parce qu'il y a déjà eu un film ou qu'il va y avoir un film bientôt, quoi.
Ah!
Ok? Et on y rajoute d'autres personnages un petit peu plus secondaires, quoique, Wanda Maximoff, alias la Sorcière Rouge.
Ah oui.
Et il y a également la Vision, qui est d'ailleurs le copain de Wanda Maximoff à cette époque de l'histoire, parce que bon, les histoires amoureuses sont assez intéressantes en plus. Hein, ils se mettent en couple, ils se défont, et puis attends, je vais avec l'autre. Alors il y a du ressentiment et tout. Enfin bon, c'est assez rigolo quand même. Et les deux jeunes bleubites, on va dire, hein, Firestar et Justice, que vous voyez là sur la droite, mais qui sont des jeunes bleubites. Et d'ailleurs,
des jeunes quoi?
Bleubites.
Des bisous.
D'accord.
Des bisutes.
Des bleubites.
Ah oui, faut parler civil.
Je le note.
C'est vrai. Alors, ce Ultron. Alors, je préviens tout de suite. L'histoire est assez trash quand même, hein, parce que ça massacre à fond les manettes. C'est-à-dire, Ultron, dès le début, eh bien, il commence carrément par massacrer tout un pays, un petit pays qui s'appelle la Slovéquie.
Ouais.
Tu vois,
en Europe de l'Est. Quoi.
Ok, Europe de l'Est, genre un petit pays. Bon, comme ça, il y a pas de problème. On peut les dégommer, on s'en fout. Hein, on a pas de. Tu vois quoi, on peut pas avoir de compassion, on les connaît pas.
Ouais.
Alors, c'est comme la. Problème. C'est comme trop différents de nous, ces gens-là.
C'est comme la Cité d'Avis, quoi.
Voilà. Ouais. Bon. Globalement, c'est pas loin de la Latvérie d'ailleurs. Hein. Ou Victor Un Fatalis.
Oui. Tout à
voilà.
Fait.
Bon, ben, ok. Quoi. Et donc. au départ, le pays se fait complètement exploser, tout massacre, et on sait pas d'où ça vient. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que il commence à y avoir également des petits dégâts qui sont commis à l'intérieur du territoire des États-Unis, où on fait sortir d'une prison The Grim Reaper, qui est un super vilain, mais qui est apparenté avec Ultron et qui est apparenté avec Hank Pym. Eh oui, parce que ça, c'est un petit peu le fils d'Ultron, on va dire, mais mécanique, quoi, avec quelques petites parties organiques. C'est lui, il est plus androïde, alors qu'Ultron, c'est vraiment un robot, quoi, mais un robot super perfectionné, quoi. Par la suite, on commence carrément à kidnapper Hank Pym et quelques membres des Vengeurs. Se retrouve prisonnier d'Ultron. Mais Ultron,
oh, les losers.
Un Ultron modifié, attention, un Ultron modifié. Le premier Ultron a été vaincu, bien entendu, quoi, hein, par Thor d'ailleurs, quoi. Mais ce Ultron là, eh bien, il est pratiquement invincible. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il s'est refabriqué.
Et grâce à sa nouvelle motorisation GTI.
En une version vachement élaborée. Hein, entièrement en fait d'adamantium, c'est-à-dire le même truc que Wolverine.
Comme Wolverine.
Bon invincible, quoi.
Mais donc, qui c'est qui va péter en premier ?
Eh ouais, qui c'est qui va péter en premier ? C'est le gros problème donc de cette énorme saga, quoi, qui s'appelle Ultron Unlimited, avec les différents trucs, le retour du mal, le mal tombe le masque, le mal au grand jour, le mal triomphant, et ensuite un petit épisode qui est un petit peu comme ça, un bouche-trou qui s'appelle Profession Majordome. Tout ça donc dans cette grande saga des Avengers, dont j'aime assez le dessin classique encore, on va dire, mais qui se permet quand même quelques petites pleines pages sympathiques au demeurant, hein, qui laisse apprécier un petit peu, quoi, la qualité de dessinateur du gars,
ouais,
quoi, tu vois.
Il y a de la précision.
D'accord.
Il y a du détail.
Ça va. C'est-à-dire que au niveau du dessin, on reste quand même assez classique, hein, c'est-à-dire dans la représentation des super-héros qu'on connaît vachement, Iron Man, Captain America et tout cela. Mais par contre, y a des recherches de contre-plongée, des vues qui sont augmentées, genre presque dessinées au fisheye, tu vois, quoi. Enfin bon, c'est assez marrant, quoi, c'est assez rigolo, quoi. Donc c'est un mélange entre l'ancien et le moderne, quoi. On a l'habitude de voir maintenant le graphisme avec fait par ordinateur, voire l'aquarelle, des techniques différentes du dessin classique qu'on avait l'habitude de voir au début des comics dans les années 50, 60, 70. Et là, c'est un petit peu entre les deux, mais c'est vraiment très très intéressant.
Et en plus, plus, en regardant de là, on a l'impression vraiment que c'est un graphisme qui est vraiment succès des X-Men, c'est-à-dire que les X-Men
la période 95. Enfin, moi, je penserais plutôt à la création, tu sais, des celui qui a fait Spawn.
McFarlane.
Proche de McFarlane, ouais, comme esprit.
Je finis ce que je disais. Donc en gros, on a l'impression que c'est vraiment graphiquement la période pré-X-Men, parce que le premier X-Men avait influencé toute la vague des comics au niveau visuel, parce que c'était des ambiances ensuite essentiellement nocturnes et très crépusculaires, alors que là on voit que c'est quand même bardé de couleurs, c'est plus open bar, quoi.
Oui, c'est très coloré, ça, il y a très peu de trucs.
Oui, la fleur en fusil, c'est le monde merveilleux des super-héros. Alors que maintenant, ils sont obligés il faut pas que ça se passe de jour, c'est toujours de nuit, les costumes sont tous désaturés, très sombres. Ah oui, alors là, tu t'en prends, il faut pas être épileptique, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est très coloré, c'est très lumineux, on va dire, mais par contre, c'est très violent aussi. Hein, c'est-à-dire que quand ils y vont et tout sur Ultron, quoi, ils s'y mettent carrément tous ensemble, quoi. Et puis bon, lui ici pas, quoi, tu vois, t'as le marteau de Thor, t'as Iron
Arrêtez
Man qui dépote ses trucs, Wanda Maximoff, la sorcière rouge et tout, qui lui balance un flux d'énergie, mais lui il bouge pas, quoi, que dalle. Et par contre, t'as des répliques qui sont vraiment mortelles. Lui, Ultron, quand il dégomme, quoi. Bon, surtout les humains, bien sûr, hein, parce que les super-héros, ils résistent un petit peu et tout, mais c'est pas mal. Et à l'intérieur de l'histoire, ce qui est aussi très intéressant, et ça c'est une dimension un petit peu plus métaphysique en fait, c'est en fil rouge, Hank Pym, qui est au départ un personnage mineur, mais quand même c'est le personnage majeur, parce que c'est lui qui a créé Ultron. Et lui, depuis qu'il y a eu ce clash, depuis que Ultron s'est retourné contre son créateur, en fait, lui, il le vit très très mal. Il s'est séparé de la guêpe à cause de ça, enfin bon... il a quitté les Vengeurs à cause de ça. Bon, il travaille dans le privé, c'est là qu'on réussit à le choper, hein, d'ailleurs, dans un labo où il travaille. Et bon, bah vraiment, le mec est torturé, mais à mort, quoi, à fond, quoi, torturé dans la tête, quoi. Et ça, c'est pas mal, c'est aussi une histoire un petit peu... pas un fil rouge quoi, mais c'est une histoire aussi qui est assez intéressante de suivre ce personnage qui est inactif, hein, c'est pas lui qui fait l'ensemble de l'histoire, mais il est présent et bon bah ok quoi, on suit un petit peu quoi son cheminement de raisonnement quoi, et là bon bah ok, on voit que les mecs ils ont bien travaillé quoi, ils ont bien, c'est pas uniquement l'histoire linéaire genre le bien contre le mal, les super héros qui vont dégommer Ultron et tout, non il y a encore plein de petits trucs annexes et tout, c'est ça qui rend cette histoire vraiment très très intéressante. Je rappelle, c'est dans les Marvel, les grandes sagas. C'est en kiosque, hein, bien sûr. C'est le numéro 9 et c'est les Vengeurs, Kurt Busiek, Stuart Timonen et Georges Pérez.
Été indien pour la mini de Regric, c'est dans la collection Calandre chez Paquet. C'est un titre qui tombe exceptionnellement bien parce qu'au moment où je vous parle en studio, il fait 28 degrés dehors. C'est une chouette mi-octobre. Hein. Enfin bon, pardon. En cet été indien commence dans les années 60 au fond de la jungle des Indes, sur le chantier des fouilles du temple Samayala Vishnayapa. Les universitaires venus faire leurs recherches savantes semblent être passés de la discussion théorique à l'opposition physique. Le professeur Castagnol essaie de se souvenir comment il a réussi à entrer dans la salle des offrandes du vieux temple et son fabuleux trésor. Seulement, c'est pas pratique quand on est coursé par un confrère jaloux de sa découverte, le professeur Silverspoon. Faute de stylo, de crayon, de papier, d'opinel, de tronc d'arbre libre, merde, 6 à gauche, puis 8 à droite et puis 3 devant, Castagnol décide de graver le plan sur la Mini Cooper de son confrère, le professeur Tumulus. Et évidemment, pas, absolument pas d'accord. Devant ce délire de fou, et surtout un Silverspoon très excité, et qui semble avoir une arme à feu en main, Tumulus embraye dans sa mini direction le port le plus proche pour rentrer en France. Quelques années plus tard, un garagiste offre à sa fille Anna une Mini Cooper d'occasion. Celle évidemment de Tumulus. Un véhicule toujours très chic, même si la carrosserie a un peu vécu, des petites bougnures, et puis ses rayures au porte-clés sur le capot. Enfin bon, on s'en fiche, hein, il est garagiste. Seulement, depuis qu'elle a cette voiture, d'étranges événements se produisent. Une espèce d'illuminé la poursuit avec trois sbires indie. Une ambiance un peu Indiana Jones. Voilà. Mais après, il y a la chronique elle-même. Alors peut-être que vous êtes suffisamment vieux pour vous souvenir de la vague mini dans les familles aisées durant les années 90. C'est quand ils ont relancé la voiture, une voiture mythique qui a été lancée en 59. Et en fait, le nom de Cooper vient d'un ingénieur qui a remotorisé la voiture pour faire des courses. Réellement. Et oui, parce que je sais pas si vous vous souvenez, justement dans ces pubs d'il y a à peine 20 ans, eh ben on disait que elle était peut-être petite, mais que son propriétaire en avait une très grosse quiquette. Ils avaient fait plein de pubs comme ça, assez rigolotes, qui avaient fait les riseurs hein, de Culture Pub et tout le reste. La Mini Cooper s'est quand même vendue à 5 millions d'exemplaires depuis 59 et elle incarnait dans les années 60 la fureur de vivre entre guillemets à l'européenne, un peu comme la Vespa italienne. Sauf que elle, c'était le Swinging London qu'elle rappelait. Petite, nerveuse, c'était avant tout une voiture de course. Hein, maintenant, la voiture n'est plus franchement anglaise puisque Mini appartient à un groupe de voitures allemandes qui l'a revendue, excusez-moi, à une tata indienne. Pour en revenir à la BD, en elle-même, Été indien pour la Mini, c'est donc Reg Rick qui en est son auteur, son histoire... est une suite rocambolesque de rebondissements. Exactement un par planche, elle n'a que la prétention de vous faire rire. Et finalement, elle y arrive très bien de ce côté-là. graphiquement. On est dans une ligne claire proche du style de Bob Demore, c'est-à-dire que on a les décors et les véhicules qui sont franchement bien rendus, mais après c'est très simplifié, je vais dire, dans les personnages, limite, je vais dire, caricatural. D'ailleurs, dedans, il y a un maréchal des logis qui ressemble beaucoup à un célèbre gendarme de Saint-Tropez. Et plein d'autres petits clins d'œil graphiques.
Moi j'ai vraiment cru que c'était du Tintin, en fait.
Ouais, c'est flagrant, hein, dans l'idée. Mais justement, c'est très proche de ce que faisait Bob Demore pour RG, hein, dans ses studios. Alors, si par moments, quand même, un œil... Allez, je vais un petit peu me jeter des fleurs. Un œil un petit peu exercé peut déceler de légers défauts de maîtrise. Le dessin est d'une exécution plus que correcte, finalement. Et c'est un one-shot qui plaira aux amateurs de BD classiques et qui aiment les véhicules anciens et aux enfants. Été indien pour la mini, c'est de Regric dans la collection Paquet chez dans la collection Calandre chez Paquet. Et peut-être que Thomas avait quelque chose à dire derrière ou non ?
Non.
Voilà, bon, bah, je relançais la musique du coup pour rien. On reste dans les années 60. Avec une BD de Didier Dainax et Mako, Dainax au scénario, Mako au dessin, Octobre Noir chez Adlibris, et là aussi c'est un one shoot. Et on est toujours au début des années 60, dans le, alors que Paris Swing, dans le rockabilly, et la plupart des groupes français dans le vent font des reprises, des traductions des rockers américains, Chaussettes Noires, tout le reste. Vous voyez le genre, Johnny. C'est le cas de Vincent et de son groupe, les Gold Star, qui se prépare pour participer au tremplin du golf Drouot, voilà, je sais plus le dire. Qui peut dire s'ils ne vont pas finalement monter sur scène à l'Olympia et y faire hurler les filles dans le public. Vincent s'appelle en fait Morand, cela ne se voit pas vraiment sur son visage, mais en fait il est arabe et vit avec sa famille à Saint-Denis dans le bidonville, coin plutôt glauque, hein, je veux dire. Son père lui passe un savon ce soir-là parce qu'il est rentré de répétition à minuit. Pas vraiment pour une histoire de convenance, hein, mais plutôt parce que les Arabes n'ont pas le droit de sortir. La France est en pleine guerre dans sa colonie algérienne, et le préfet de police de Paris, Maurice Papon, a été nommé en 59 pour lutter à tout prix contre le FLN, et il a instauré un couvre-feu entre 21h et 5h du matin, exclusivement appliqué envers les personnes de l'Afrique du Nord.
Ah oui, il avait l'expérience déjà.
C'est dire. Mais à l'époque, il a un petit truc contre le genre sémitique, on va dire. Une inégalité, une vexation, un racisme à peine voilé et intolérable au pays des droits de l'homme. Fort logiquement, la population algérienne à Paris se concerte pour manifester son malaise. Le FLN a fait passer le mot d'ordre que la manifestation doit être pacifique et sans aucune arme. Le père de Morand, Vincent, insiste pour qu'il vienne à cette protestation. Alors que c'est justement le soir du tremplin au gros feu de Drouot et c'est le chanteur. Morand forcera compagnie au sien et ira jouer sur scène. Cette petite protestation se déroule il y a exactement 50 ans, à deux jours près.
Ouais, c'est lundi.
C'est le lundi, voilà. Entre 20 000 et 30 000 Algériens et sympathisants répondent à l'appel. La manifestation du FLN dans Paris sera réprimée par le préfet Papon dans le sang. On estime que le nombre de protestataires tués par la police ce soir-là sera entre 100 et 200. On dit qu'il y a eu des meurtres déguisés en suicide, ou on ne sait trop, ou attribués à la pègre,
c'est-à-dire
et tout le reste.
On estime à environ 200 les morts liés directement à la manifestation. Mais il y a eu d'autres morts, qui ont été classés en faits divers.
C'est dire, vraiment de ce côté-là, surtout que bon, on
et
a
dans,
émané,
dans d'autres villes,
hein, jouer les chiffres. Hein.
Villes, on parle de Paris, là, mais il y avait également d'autres grandes villes, hein,
notamment Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Voilà. On n'y a pas échappé. Les grands pays aussi, les grandes villes industrieuses comme Lille, Sochaux et tout le reste. Le massacre du métro Charonne est terrible, la police ayant utilisé des mitrailleuses pour repousser, disperser, pour assassiner dans le tas, hein, quand même. On va pas
mélanger les mots. Une mitraillette, pas une mitrailleuse.
Enfin, en tout cas, ils y sont allés sec. Des dizaines de personnes sont basculées par-dessus les ponts dans la Seine et accueillies sur les berges par les bâtons des CRS. Et on a annulé la venue d'un chanteur de Ray Charles qui devait jouer ce soir-là au Palais des Sports. On a réquisitionné le Palais des Sports pour trier, je vais dire, cette ratonnade qui n'osait dire son nom. La tragique nuit du 17 octobre 1961 reste l'une des heures les plus terriblement noires de notre 5ème République. Dernier soubresaut d'une époque colonialiste révolue où les citoyens étaient classés entre blancs et indigènes. Une tache noire qui envenime encore les esprits. Aucun responsable politique français n'a réellement été inquiété. Et Maurice Papon est resté préfet de la police de Paris jusqu'en 67, si je me trompe. Si vous allez au musée de la préfecture de police de Paris, c'est le commissariat du 4e arrondissement, hein, y a une partie justement de l'exposition permanente qui y est consacrée. Et c'est encore quelque chose qui est très difficile d'en parler. Justement, on ne va pas en parler, très probablement. Cette BD est une œuvre de mémoire par Daïn Inx, qui, tout petit, à l'âge de 10 ans, a vu ses exactions et qui l'ont profondément marqué. Son premier roman sera d'ailleurs Meurtre pour mémoire, hein, où chaque chapitre porte le nom d'une de ces personnes qui ont été terminées, hein, si je puis dire, lors de cette manifestation.
En plus, ça se déroule à Toulouse, quoi. C'est ça qui est assez marrant, quoi. C'est que l'histoire se déroule en grande partie à Toulouse. Qu'en plus, le nom des protagonistes, ben, ont des noms d'endroits. C'est-à-dire, il y a le commissaire Matabio, enfin, moi, c'est assez rigolo, quoi. Parce que bon, ben, pour le Toulousain qui connaît bien assez bien sa ville, il va vachement bien se retrouver dans ce bouquin qui date quand même, c'est le premier qui date quand même de, des années 80. Début des années
70, début 80.
Ouais, c'est ça, hein. Donc c'est assez intéressant. Et dans cette BD Octobre Noir, donc il y a aussi ça sort bien entendu fort à propos, quoi, un petit peu avant la commémoration donc de
je sais pas
de
si cet on
anniversaire,
aurait eu...
on peut pas dire anniversaire, quoi, parce que bon,
je sais pas si franchement il y aura une commémoration. En Algérie, en tout cas, il y en aura une d'ailleurs sur la place où il y a eu la fête de le Festival international de la bande dessinée à Alger. C'était la semaine dernière, mais justement, ce lundi, c'est là où il y a le grand monument justement dédié à ce massacre.
Si, et d'ailleurs à signaler que dans cette BD, la préface est signée Benjamin Stora, qui est un historien. Qui a fait l'essentiel, qui est le spécialiste français, on va dire, de cette période de l'histoire.
Enfin, de l'Algérie en général, mais de l'Algérie coloniale française, voilà. Parce qu'il a aussi écrit sur la Seconde Guerre mondiale et tout ça, mais c'est vraiment le très grand spécialiste sur le sujet. Il s'est arrêté après la libération et les premières purges, hein, qui ont commencé très tôt au sein du FLN, dès 63, il y avait une petite guéguerre. Mais c'est le grand spécialiste qui, en général, d'ailleurs, intervient beaucoup dans la BD. Il aime beaucoup ce support. Il a écrit, d'ailleurs, des scénarios. C'est pas le seul historien, d'ailleurs, sur le sujet, puisqu'il y a Jean-Luc Enaudi.
Ouais, Jean-Luc Enaudi qui est aussi présent,
Qui est aussi présent. L'œuvre de mémoire en question, on le voit aussi en fait sur la fin, puisque le nom de toutes les victimes, même les victimes anonymes, sont répertoriées. À la fin, il y a une double page assez émouvante. Et il y a surtout, en fait, ils expliquent pourquoi en fait ils ont fait cette BD, parce que tout simplement même les familles sur place se sont des fois menti, se sont fait un déni de mémoire vis-à-vis de ces événements, c'est-à-dire que bon, on veut pas trop y croire et tout le reste. C'est franchement terrible. À noter d'ailleurs justement sur le sujet, si vous êtes sur Paris le 27 octobre, un débat avec les auteurs, donc avec Didier Daïnax et Mako, les historiens Jean-Luc Hainaut, Benjamin Stora, et aussi des politiques d'ailleurs seront présents sur la mémoire et le déni lié à ce massacre d'octobre.
Ouais, il y aura également Pierre Jox, Didier Daïnax bien sûr, Jean Daniel, hein, qui est un ancien du Nouvel Obs, ou qui est toujours au Nouvel Obs, je sais pas quoi.
Oui, il en est toujours patron.
Ainsi que Samia Messaoudi, Mehdi Lalaouni, Aïssa Derouaz, Mohamed Graki et j'ai oublié Abderrahim Hafidi, voilà,
qui seront présents donc à l'Institut du Monde Arabe pour un débat et une projection le 27 octobre prochain.
Quelle honte, ils prononcent mieux les noms arabes que moi, moi qui ai vécu 2 ans en Algérie, et je peux vous dire les proportions de cons et à peu près la répartition des cons est à peu près standard dans le monde entier. Il y en a eu aussi là-bas.
Commence par apprendre l'allemand, tu verras, il y a une facilité après à prononcer.
Je ne veux pas savoir. C'est quand même une BD assez tragique. C'est une BD de mémoire. C'est un one shot. C'est assez lourd. Après, c'est intéressant justement parce que ça montre ce qu'était le milieu entre guillemets, hein, le milieu des jeunes et tout le reste, et cette libération qui est arrivée avec des mœurs, avec le rock et tout ça, et qui était en contradiction totale avec les autorités et les parents. C'est amené quand même. C'est pas le sujet principal. On n'en ressort pas intact de cette BD.
Non, mais ça parle d'un conflit des générations qui existe toujours d'ailleurs, hein, que ce soit dans les familles.
Dis celui qui a confisqué carte Pokémon. Je sais, c'est private joke, mais voilà. Je vous le recommande très sincèrement. Donc, Octobre Noir de Didier Deninx et Mako, c'est aux éditions Adlibris. BD qui est distribué officiellement aussi en Algérie, hein. Ça sort relativement rare. Donc, c'est bien à le noter et à le préciser.
Bah, tu nous passes un morceau de rock'n'roll alors?
Ah ouais, on y va, un petit peu cool.
Ah ouais.
Bebop Lulula, she's my baby. Bebop Lulula, I don't mean my baby. Bebop Lulula, she's my baby. Bebop Lulula, I don't mean my baby. Bebop Lulula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. Well, she's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! The one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, 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 more. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby. My baby, my baby, my baby.
Let's rock again now.
Yeah, on air just for now. Bebop a Lula by the rocker, Mr. Eugene Vincent Craddock.
La 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 la.
La séance de 13h vous est présentée en Dolby Stereo Surround 2D relief truc mûche.
Eh oui, avec du sport, puisque du sport, la vue avec moi, c'est bah ouais. Film en VO.
Super.
Tant que nous allons
si il est que 13h et qu'on vient à peine de commencer le cinéma, ouh, on va essayer d'éviter dans ce cadre de vie.
Alors il va être question de il va être question de vroom vroom, mais pas que, dans ce film qui s'appelle Drive, et c'est un film réalisé par Nicolas Winding Refn, donc réalisateur danois, dont nous avions déjà parlé du film précédent qui s'était Valhalla Rising. Et donc, dans ce nouveau film, point du tout de Mads Mikkelsen, mais il est, nous n'y perdons pas au change, car nous avons Ryan Gosling, l'égérie de toutes les nanas, qui a, je crois, fait son coming out il y a pas longtemps.
Hein. Ah
ouais? Ouais, je crois. Je vérifierai.
Tant mieux pour nous, hein.
Ouais, voilà. Bryan Cranston. Ah oui, avec, je disais en off à Xavier, hier, une voix s'est élevée quand nous avons vu ce nom au générique qui a dit « Ouais !» Quelle sale. Je vous laisse deviner qui c'était. Karim Mulligan.
Ah d'accord, ok. Albert, je l'avais pas dit.
Albert Brooks et Ron Perlman. Alors, Los Angeles...
Et Garcia Isaacs aussi, le...
Oscar Isaac. Alors, dans quoi il a joué, lui?
Alors là, je sais pas du tout, hein, mais j'ai pas le temps de chercher. Donc,
d'accord.
Mais il a une gueule, hein, de toute façon.
Oui, donc, tout à fait.
À mon avis, il a déjà dû jouer des rôles de Chicano. À
je
tous
pense.
Les coups.
Donc, Los Angeles, un pilote sans nom, puisque nous ne connaissons pas son nom au cours du film, qui s'appelait le... On l'appelle le driver, enfin, on l'appelle pas, en fait, dans le film.
Non.
On dit le jeune. Il transporte des braqueurs contre une rémunération. Alors il a plusieurs règles, il refuse d'assister au braquage, il leur donne un créneau de 5 minutes et ensuite il est à fond avec eux et ensuite il les dépose à un endroit et il se casse incognito. À part ça, il est aussi cascadeur pour le cinéma et bosse aussi dans un garage. Alors il fricote de plus en plus avec sa voisine qui est très craquante, mais en tout bien tout honneur, fricotage, mère d'un petit garçon dont le père est sur le point de sortir de prison. Le quotidien du pilote se partage donc entre des errances nocturnes au volant, en écoutant de la musique électro et du bricolage dans le cambouis. Mais sous ses airs...
Et en suivant les matchs des LA Clippers en direct, hein, des matchs de basket.
Voilà, et préparant peut-être des courses automobiles, mais ça, bon... Mais sous ses airs d'autiste mutique se cache également un hyper-violent à qui il ne faut pas se frotter. Voilà, donc si vous êtes... alors ça, ce film appartient à la catégorie des films vaporeux qu'on pourrait qualifier dans le registre de l'artistico-branchouille urbain. Hein, tu es assez d'accord avec ça?
Oui.
On pourrait, voilà, c'est aérien, c'est de la musique un peu électro avec des personnages.
On va avoir des emmerdes avec Mamie Van Doren là. Hein.
Non, mais enfin, moi je dirais, bon, c'est pas pour te contredire, mais je dirais plutôt que les images par rapport à la musique et tout, il y a une espèce de contre-pied qui est assez énorme, hein, parce que bon, bah, on a vraiment de la musique un petit peu. On va dire pop électronique pompeuse des années 80, quoi, tu vois, un peu le genre, quoi, le genre qui était vraiment en vogue à l'époque et qui tranche vraiment avec des fois la rudesse des images, la sécheresse des images, le vide, hein. C'est un film qui est assez vide, comme le précédent d'ailleurs. Il y a très très peu de figurants. Hein, quand ils se déplacent dans les rues, quand il y a très peu de figurants, c'est assez désert. Hein, disons que bon, bah il y a pas eu. On a l'impression que.
No Man's Land.
Winding Refn, de toute façon, ils s'emmerdent pas avec des figurants et tout. Non, là, je vais placer 400 personnes qui se croisent sur les trottoirs dans une rue et tout pendant que la voiture. Non, pas du tout. On s'en fout. Non. L'essentiel, c'est la voiture. C'est le sujet, quoi. C'est pas ce qu'il y a autour. On s'en fout, quoi, à la limite, quoi. Et c'est pour ça que bon. Bah, ça rend le film justement un petit peu arty, un petit peu intello, parce que bon bah il y a une espèce d'artificialité dans la vie réelle que traverse le héros. C'est pour ça que c'est pas mal, parce que c'est vraiment très très bien foutu.
Et donc dès le générique, on voit que la typo utilisée, l'esprit du générique graphique correspond très très bien avec cette musique qui est un peu passée de mode, qui était typiquement des années 80, avec une typo vraiment qui rappelle Flashdance, qui rappelle des films comme ça, même la typo de Brésil écrite un peu comme ça, avec on dirait que c'est un néon rose. D'ailleurs, c'est un néon rose, les textes dans le générique, et tu te dis, mais.
Ouais, typo Brésil ou même Flashdance, quoi.
Ouais, ouais. Et qu'est-ce que c'est que ce générique? Qu'est-ce que c'est que cette musique? On m'avait vendu du Fast and Furious par le nouveau réalisateur hype européen. mais ce n'est pas du Fast and Furious, ce n'est pas une esthétique des films des années 80. Et en plus, comme tu parlais de contrepoint, on peut dire effectivement que les images sont, véhiculent du vide, mais au niveau de la composition, mais également, on voit que c'est quand même une patte très arty, et c'est pas du vide, c'est plutôt à rapprocher de Wong Kar-wai, une image très travaillée, très colorée, très saturée, avec une urbanité, une et un aspect nocturne qui est plutôt sympa.
La nuit a l'air plus sympa que le jour, quoi. Oui. C'est ça qui est intéressant. La nuit est très illuminée, qui a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de flash et tout, quoi. Bon, au départ, dans les premières images, on se dit bon, bah ok, c'est bon. Los Angeles la nuit, c'est sympa, c'est cool, ça a l'air bien, quoi. En hélicoptère, ça vaut le coup. Mais bon, c'est des images qui se répètent en fait, hein, et qui ont quand même du sens. Parce qu'elles ont à voir avec l'histoire, parce qu'il faut avoir une vue au-dessus, quoi. Il faut planer un petit peu au-dessus de ce qui se passe.
En tout cas, c'est très très bien de la part de Xavier de nous mettre la musique de Miami Vice derrière, puisque
je savais pas quoi mettre. Tu m'avais pas briefé.
Parce que justement, j'allais parler de Michael Mann, puisqu'on parlait de Los Angeles qui était montré tel un no man's land avec pas de personne quand il conduit.
Ça me rappelle un film tourné à la DV.
Un film tourné à la DV que j'attends toujours que tu regardes d'ailleurs, que je t'avais prêté à une époque. Qui s'appelait Collateral. Ouais. Et on voyait les pérégrinations d'un taxi qui était dans des rues très très larges et très désertes.
Ou LA Homicide, je sais pas si tu l'as vu.
Non.
Qui est Michael Mann. Bon.
Donc moi je trouve ça me rappelait un peu la démarche de Michael Mann. Alors évidemment deux films qui sont aux antipodes l'un de l'autre, mais au niveau de la volonté de peindre Los Angeles nocturne, aérien et presque reposant pour la tête. C'est vraiment ça. Et en plus, tu disais justement, il y a deux mondes dans le film Drive, puisque là, le monde nocturne qui est le monde du conducteur, enfin du héros, on va l'appeler le driver,
celui où il est en position de force en fait.
Voilà, ouais. C'est lui qui commande, c'est lui qui c'est sa ville. On voit au départ une voix off où il montre qu'il maîtrise sur le bout des doigts les rues, les imbrications, puisqu'il faut bien hein, vu son métier obscur. Et puis le monde de jour. Alors là, on a les caïds, on a les mafieux, un monde beaucoup plus attendu quand tu vois des films à petit budget de mafieux avec des personnages hauts en couleur, avec des flingues, des valises de billets, du braquage. Alors là, on est plus dans le classique. Même peut-être que c'est cette partie-là qui m'a le moins plu. Moi, je trouve que... Et au milieu, tu as l'amourette avec la voisine, ouais, qui se déroule plus dans le... Des fois,
dans
deux jours.
Dans le non-dit. Souvent dans le
non-dit. Dans
le
non-dit, hein. Et qui se déroule deux jours, mais avec une esthétique et un esprit qui correspondent au monde nocturne du film.
Ouais.
Et donc, on voit que c'est vraiment la parenthèse où le héros vraiment se sent bien, se sent à l'aise. Et ça rend d'autant plus flagrante et très étonnante les scènes où, on va dire, qu'il pète pas les plombs, mais qui vraiment se laisse entraîner par la violence, la surenchère de violence graphique, et ouais, on a vraiment des scènes vraiment gore où il est obligé de s'adapter au code et au comportement de l'univers mafieux. On parle d'univers mafieux, on va dire deux mots sur le casting, puisqu'on a parlé de Bryan Cranston, de Ron Perlman, qui font un duo complètement haut en couleur, avec Ron Perlman qui incarne un patron de pizzeria juif, qui est...
juif italien, quoi.
Qui s'appelle Nino, avec une gueule, mais vraiment, tu t'en peux plus, tu vois, mais il a vraiment une tête... Il a été fait pour faire du cinéma, ce type.
Ouais, avec au moins deux fuck par phrase, de toute façon. Minimum deux fuck par phrase.
Voilà. T'as Albert Brooks qui campe son associé, qui est vraiment le, d'ailleurs, je le connaissais pas, mais apparemment, c'est un acteur qui a une carrière comique derrière lui.
Ouais.
Et on a aussi Bryan Cranston qui est plutôt le paternel, qui est une figure paternaliste pour le héros, qui l'a accueilli, qui a le bassin qui est détruit, donc il cloudique. Il est patron du garage dans lequel il travaille. C'est vraiment le gars chaleureux, mais...
c'est le loser.
Le loser magnifique. Qu'est-ce qu'on pouvait dire aussi? Alors, c'est vrai que ça appartient à la catégorie des films froids, hein, mais pas déshumanisés. On a beaucoup de films froids, on va dire, qui dans un trip, tu n'as pas envie de les revoir ensuite, de les revoir en DVD, parce que tu sais que tu vas un peu te faire chier. Par contre, ça, c'est vraiment à rapprocher de son film précédent, Valhalla Rising, puisqu'on pouvait dire que c'est aussi un film froid, sur des errances de personnages qui essaient d'atteindre un but sur la foi, cheminement, mais qui n'était pas froid non plus. C'était quelque chose de... c'était quelque chose de très aérien et lointain, mais tu voyais quand même qu'il y avait de la violence, qu'il y avait des personnages qui étaient mastoc, qui véhiculaient de l'organique. Et là, c'est pareil, on pourrait dire ça aussi de Drive, qui a obtenu justement le prix de la mise en scène à Cannes, donc voilà, ça accentue aussi le côté, tiens, ça aurait pu avoir un côté je me la pète, je suis le réalisateur. Il y a beaucoup de jeux sur le hors-champ, sur le non-dit, sur le ralenti, puisqu'il y a pas mal de scènes vraiment magnifiques qui tord justement ce qu'on pourrait attendre de ce genre de film.
C'est vrai, on s'attend à un rythme soutenu quoi de la part de ce genre d'histoire et au contraire hein, on est vraiment dans le ralenti, tout se passe pour peut-être justement encore en parlant de contrepoint pour accentuer quoi les scènes qui vont devenir hyper violentes, les scènes où il va vraiment se passer quelque chose où vraiment l'action va être déterminante pour la suite. Et là, c'est vraiment très très bien rendu. Hein. La salle qui sursaute quand il y a le premier coup de feu qui est tiré.
En plus, il y a travaillé sur le son qui est vraiment impressionnant.
Le son est vraiment très très bien rendu. Hein. Son stéréo, mais enfin bon, qui vraiment c'est assez vraiment de la belle ouvrage. Hein,
et puis les actes pour supprimer des vies sont sans ambiguïté. Tu vois que ce sont des professionnels qui vise là où ça fait mal et qui utilise des armes blanches, on va dire, de façon qui n'autorise pas l'erreur.
Voilà. Donc c'est ça.
Ça coupe. Quand il y a des coups de feu, il vise juste et là où il faut, ça gicle. Ensuite, on va parler. Je finis en parlant de Ryan Gosling, qui est l'acteur principal, qui vraiment incarne. Aurait pu rendre son personnage abaffé. Ouais. Parce que c'est vraiment, il joue l'autiste, le gars qui est mou. Qui est en plus il a une stature qui il prend pas de place dans l'écran, il est tout filiforme, il a une veste qui est complètement ridicule parce que c'est une veste blanche éclatante avec un scorpion derrière.
C'est une veste de bowling avec le scorpion qui est brodé derrière quoi. Donc voilà quoi.
Il incarne quelqu'un de diaphane, quelqu'un de blond
Dans la première demi-heure, on se demande si on l'entend juste quand il parle au téléphone quoi. Oui. C'est tout. Quoi. Mais on se demande si on va pouvoir adhérer à ce personnage et si on va pas quitter la salle parce que justement tellement il est fade, tellement il n'y a rien du tout. Mais que ce soit dans son non-discours, mais également dans son attitude, c'est-à-dire quand on le voit marcher, quand on le voit être en confrontation avec d'autres gens dans la vie de tous les jours, c'est le type qui est complètement effacé, c'est un mec qu'on lui filerait des claques et tout, et puis il dirait merci à la limite. Quoi. C'est carrément assez incroyable. Mais par contre, effectivement, quand il y a contrepoint, alors là, ça fait très 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 mal.
Et oui, il y a des scènes vraiment où on voit son visage, on va dire de sauvage, avec une scène dans l'ascenseur qui est absolument magnifique où la nana se rend compte de son vrai visage, de l'autre visage qu'elle n'a pas encore vu. Et tu parlais du côté mutique, mais dans le film, c'est tellement bien amené. Mais il emballe la nana, mais en disant rien, quoi.
En disant rien.
Et il emballe la nana en lui portant ses courses.
Ouais, en lui portant ses courses, en lui sortant trois phrases bidons, dans le style t'habites où. Et c'est par ses silences qu'il arrive à faire parler les gens. En plus, lui, en ne disant rien, c'est la nana qui va commencer à lui expliquer ce qui se passe, quoi.
Oui. Hein,
au travers de certains regards. Simplement, quoi, il arrive vraiment à exprimer quelque chose. Et ça, c'est vraiment très très bien. Quoi.
Et voilà, donc ça prouve encore une fois toute la force de la mise en scène de Refn, puisqu'il arrive à faire passer beaucoup de choses où d'autres réalisateurs se seraient pris les pieds.
Ouais, ouais, parce que justement, je parle toujours de cette première demi-heure et tout, où on se dit, Refn est peut-être très fort au niveau de l'aspect visuel, de l'image, de la transposition du décor, du rythme et tout ça, mais très mauvais en direction d'acteur. Et en fait, au fur et à mesure que le film avance, on se dit « Ah, quand même !»
Voilà, donc plus, alors ne vous fiez pas à la bande-annonce, je l'ai revu ce matin, c'est vraiment, ils nous le vendent comme du Fast and Furious, ils ont pris toutes les scènes avec des bagnoles et ils les ont mises bout à bout.
Les exploitants vont les haïr vu le nombre de Kaira qui vont ressortir déçus au bout de la 25e minute.
Alors bien sûr, il y a quelqu'un qui est sorti avant la fin hier soir. Quoi.
Ah, oui,
quand même quelqu'un qui est sorti avant la fin, mais enfin c'était déjà bien entamé quoi.
Voilà, on voit quand même de la Mustang, on voit de l'Impala aussi, on voit des bagnoles, mais c'est pas c'est pas de la bagnole tunée, t'as un peu le bruit du moteur quand il conduit, là c'est un vrai régal pour les oreilles,
ouais, ouais.
Mais à part ça, t'as deux scènes où il fait vraiment acte de pilotage clandestin. Le premier, c'est tout élaboré sur la stratégie, il te fait ça en anguille. La deuxième, elle carbure du pâté, vraiment ça envoie les manettes, mais c'est en même temps la conclusion se fait de façon arty aussi, et ça prend tout à fait le contre-pied de ce genre de du film de braquage. Donc voilà, c'est un film qui est vraiment saisissant, singulier, plutôt autorisant pour public averti, on va dire, à voir en VO bien sûr, parce que
va falloir que Thomas un jour se décide à faire une série comparée de films de braquage avec sortie en voiture. Parce que tu en as fait quelques-uns,
ah ouais,
et tous à chaque fois avec un traitement extrêmement différent.
Avec The Town, avec plein de trucs.
Ah ouais, c'est vraiment un genre extrêmement particulier, j'ai l'impression que tu t'attaques, je crois que ça te botte bien, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mmh. Ah.
Un petit excès de vitesse dans une voiture sur la rocade, ça te dirait
ça,
91 km/h.
C'est peut-être typique des gens qui ont comme plaisir à conduire, en fait. ils chroniquent des films de braquage. Voilà. Alors, il s'agissait de Drive de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Bryan Cranston, Carey Mulligan, Albert Brooks, Ron Perlman, Oscar Isaac, voilà, du lourd. À voir en VO, parce que qui dit film mutique avec peu de dialogue, évidemment, c'est plus tu as moins t'as de dialogue et plus il faut savourer les dialogues qu'il y a, parce qu'il faut en profiter quand ils y sont. Donc voilà, pas mal de dialogues murmurés, donc voilà, plutôt aller en ville pour voir le film Drive qui est sorti à 10 jours à peine, une semaine.
Tu annonces ce morceau?
Oui, donc c'est extrait de la BO du film et c'est Kavinsky et Love Fox. Le titre du morceau s'appelle Night Call.
They're talking about
Énorme. Kavinsky and Love Fox.
Ah,
Michael.
Tu kiffes ça, toi, hein?
Ah, bah, non, mais je trouve, il y a vraiment la patte des Versaillais derrière, tu sais, sur la manière de travailler le compresseur et sur la rythmique assez lente. Et du coup, ce qu'on disait, moi, j'ai pas vu le film, contrairement à mes deux comparses. J'ai dit, du coup, justement, c'est intéressant parce que ça permet de sortir justement les spectateurs du je vais te mettre une grosse musique derrière pour faire le rythme et tout, est-ce que on peut voir justement ce genre de scène différemment sur le montage, sur le rythme de montage, sans les artifices que sont la musique ou les effets visuels, et sans forcément babouliner.
Mais je pense pas me tromper, mais je pense que c'est la musique que le personnage principal s'écoute dans sa voiture, hein, d'ailleurs.
Alors, en général, alors ça, je connais quelqu'un qui aime faire de la vitesse sur son véhicule.
Je vois qui
me dit, mais justement, les pilotes qui sont dans ce genre de truc, etc., ils mettent pas du tout une musique rythmée, etc. Au contraire, ils mettent des musiques très lentes, très coulantes, voire de la musique de chambre, justement parce que ça les aide à mieux se concentrer, tandis que le rythme peut être un faux rythme. Ce qui est très dangereux justement parce que là tu te tues, faut pas déconner. Mais on n'est pas là pour vous inciter à faire la voiture n'importe comment. Voilà. Il est 13h et 25 minutes dans le Super en week-end, ce qui veut dire que ce sont
les 5 dernières minutes.
Mais j'ai l'impression qu'on va pas faire 5 minutes.
Ah bah je peux le faire à toute vitesse quoi, mais vous allez rien comprendre. Alors comme la semaine dernière, on va parler de documentaires de guerre. Mais on a l'habitude, et je le disais déjà samedi dernier, de vous ressasser, de vous renarrer ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Alors je vous rappelle quand même que Les Combattants de l'Ombre, cet excellent documentaire en 6 parties, a commencé mercredi dernier dans le cadre des Mercredis de l'Histoire sur Arte. La deuxième partie, c'est-à-dire l'épisode 3 et 4, ce sera mercredi prochain. Ne pas louper, hein, c'est vraiment magnifique. Et je suis tombé un petit peu par hasard sur ce documentaire, en fait. Grosse surprise, eh bien, j'étais agréablement surpris par ce documentaire qui s'appelle 14-18, Le bruit et la fureur. Alors au titre on se dit bon, c'est vraiment un petit peu tape à l'œil, c'est un petit peu racoleur, mais pas du tout. Le réalisateur Jean-François Delassus a l'habitude de faire ce genre de documentaire historique, de plus il est aidé par une historienne renommée, donc de ce côté-là, du côté véracité et cohérence historique, il n'y a pas de problème. Et de plus, le commentaire entre guillemets, est fait par Alexandre Astier.
Non,
le
c'est
monsieur
pas vrai.
De Kaamelott. Le monsieur de Kaamelott.
Alors, il a une voix assez berçante. Il a une voix assez posée. Ça va être intéressant.
Alors, le truc qui est très intéressant, c'est qu'à propos de ce commentaire, justement, d'Alexandre Astier, c'est que ce n'est pas un commentaire, mais c'est plutôt une lettre ou un dialogue. Alexandre Astier est dans la peau d'un soldat qui va partir en 1914 et qui va faire l'ensemble de la guerre avec son copain Léon.
Ok.
Et donc les deux copains vont être balancés au gré des années de Première Guerre mondiale dans le Grand Bain avec en passant un petit peu partout, Verdun, enfin bon.
Attention, en passant un petit peu partout, parce que c'est une particularité de l'armée française quand ils sont retrouvés dans cette guerre de position. À partir de 1915-1916, ils appliquent une technique qui est de rotation des troupes que les Allemands n'appliqueront pas, ce qui fait que c'est-à-dire que l'ensemble des Français savait exactement, l'ensemble des soldats français savaient pour le chemin des dames, etc., puisque eux, ils l'ont vu, alors que justement les Allemands c'était très contingenté, on ne mélangeait pas, on ne brassait pas comme ça les armées.
Ouais, alors ce qui est aussi très intéressant, c'est que les documents filmés d'époque, bien entendu, ouais. Bien la plupart sont colorisés, donc légèrement colorisés. Ce n'est pas la colorisation comme on le voit dans les films noir et blanc qu'on a colorisés, hein, les films des années 60 voire 50. Non, c'est très léger. C'est-à-dire que bon, par exemple, quand on voit des soldats dans les tranchées et tout, on voit juste le bleu des vareuses. Et le reste gris, noir et blanc. Donc de ce côté-là, ça va, quoi. Ça pète pas à l'œil. Ça permet d'être un petit peu plus agréable, parce que c'est quand même un documentaire qui fait plus de 50 minutes, qui doit faire 1h20, un truc comme ça. Donc c'est assez long. Ça retrace linéairement les 4 années de guerre. On ne reste pas que dans le domaine franco-français. On va aussi voir un petit peu ce qui se passe sur les autres fronts, hein. C'est-à-dire qu'on comprend un petit peu mieux pourquoi c'est une guerre mondiale. Hein, parce que nous, ce qu'on connaît de ce que Première Guerre mondiale, en fait, c'est justement les tranchées, ce dont on vient de parler. Mais il y a également eu la guerre dans les Balkans, il y a également eu le front russe, hein, qui est très important, puisque parallèlement à ça, le tsar, par exemple, c'est lui qui déclenche la guerre et tout, mais en 1917, il va se faire renverser par les bolcheviques.
Bolcheviques qui ont essayé de négocier une sortie.
Lénine signe la fin des hostilités avec le Kaiser, un petit peu avant la fin de la guerre, fin 1917.
Les Turcs qui avaient essayé de prendre la revanche sur les Grecs, ça a été un petit peu ouvert, plus quelques petites escarmouches aussi dans les colonies.
Voilà. Alors, le documentaire est vraiment très très complet, parce que ils sont abordés vraiment tous les sujets, à savoir ça ne se concentre pas uniquement sur la partie militaire, mais on s'attache également à décrire le quotidien des populations, de la population française, donc vidée de ses hommes. Donc ce sont les femmes qui font le boulot à la place, les femmes qui vont construire l'armement, les munitions, les enfants même qui s'amusent à jouer à la guerre. Il y a même des scènes très cocasses, c'est-à-dire que la vie continue un petit peu, rendue par des extraits d'archives qui sont vraiment assez remarquables, hein. Il y a eu un gros boulot, à mon avis, de recherche d'archives de ce côté-là, parce que c'est quand même du très 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 vieux, hein. À presque un siècle, et ça donne vraiment un documentaire qui est historique, hein, qui fait partie de la grande histoire, mais avec plein de petites histoires comme ça, quoi, plein de petits détails qui fourmillent, qui sont vraiment très très bien rendus. Par exemple, une suite de cartes postales concernant les rapports des poilus avec leurs femmes et tout. On a même un petit couple dans un nid d'oiseaux, carrément avec le nid, les cartes postales de l'époque et tout. C'est vraiment très très bien foutu. Donc ça s'appelle 14-18, le bruit et la fureur. Alors c'était diffusé en prime time, c'était avant-hier, mais on peut encore le revoir, c'est sur Planète Plus jeudi prochain à 10h15 du matin. Désolé pour l'horaire, mais je vous dis que ça vaut quand même le coup. Voilà. Sinon, côté série, il y a déjà les nouvelles saisons de deux séries un petit peu vampiresques, surtout l'une, c'est True Blood, la saison 4 qui démarre sur Orange Cinémax mardi prochain à 20h40, et Being Human, qui est pas uniquement vampiresque, hein, parce que c'est une coloc, quoi. C'est une série anglaise, c'est une coloc entre un vampire, un loup-garou et un fantôme.
Excellent.
Et c'est anglais.
Ça rappelle le Millennium, Zombie Millennium, la BD de Arthur Depin.
Là, il s'agit de la version américaine, dont c'est la première saison qui est diffusée par Sci-Fi.
J'imagine le pitch. Alors, c'est Friends avec des monstres.
Avec Sam Huntington et Sam Witwer, oui. on dit d'ailleurs que les critiques concernant le remake américain est un peu plus sanglant et un peu plus sensuel, on va dire, que la série anglaise, qui est plus axée sur la comédie de situation, sur les quiproquos, sur ces choses-là, quoi, que sur le grand guignol. on va dire. Donc ça peut être intéressant de voir le traitement différent des deux trucs. Being Human est programmé sur, alors en full frontal par rapport à True Blood sur Sci-Fi, c'est mardi prochain à partir de 20h40. Deux séries inédites qui démarrent sur nos chaînes françaises sur TF1 déjà dans la case horaire de Fringe, j'allais dire, parce que c'est le mercredi à 23h40. C'est Chase, la nouvelle production de Jerry Bruckheimer.
Oh.
Avec Kelly Dinklage, entre autres, une histoire de US Marshals. Alors, on avait déjà une série qui s'appelle US Marshals, mais là, qui sont chargés de traquer... la série qui s'appelle US Marshals, c'est plus le sous-titre français Protection de témoins.
Oui, d'accord, tout à fait. Donc, ce qui est bien, ce qu'elle est censée faire.
Voilà. Alors que là, eh bien, il s'agit plutôt de track. Hein. C'est un film de track avec des Marshals qui vont chercher les criminels les plus recherchés des États-Unis. Donc ça démarre sur TF1 mardi prochain à 23h40, et vu l'horaire auquel c'est diffusé, c'est pas peut-être, il y a que 8 épisodes d'ailleurs, c'est pas parce que c'est une bouse, hein, si c'est du Jerry Bruckheimer, ça veut dire qu'il y a les moyens, mais c'est peut-être parce que c'est assez violent.
C'est un petit peu choqué, oui.
Voilà, c'est assez violent. Et l'autre série qui est également une série adaptée d'une série originale, mais là il s'agit pas d'une série anglaise mais d'une série danoise, c'est The Killing, la version américaine, Fort Bridgerton, donc, qui démarre sur Paris Première, c'est lundi prochain à 20h35. Alors l'adaptation a été faite par quelqu'un qu'on connaît relativement dans le monde de la télé, parce que c'est une showrunner qui a œuvré entre autres sur Cold Case, sur l'ensemble des saisons de Cold Case. C'est Vina Sud, une nana, donc, et le showrunner, c'est en fait le type qui supervise les scénarios et les...
Oui, c'est le chef scénariste et qui en même temps tient la Bible.
Voilà, qui est chargé de la cohérence des différents épisodes par rapport aux épisodes précédents. Voilà, c'est ça qui tient la Bible, hein, comme tu dis. Alors donc, cette première saison a 13 épisodes. Alors, ceux qui ont vu la version danoise sur Canal+, sur Arte, eh bien, ils vont voir un copier-coller au niveau de l'histoire. C'est-à-dire que si vous voulez, je vous donne déjà le nom du tueur, parce que bon, bah, le début, on retrouve une nana passablement massacrée dans un lac, et bon, ben, l'enquêtrice Sarah Linden, et non pas Sarah Lunt, comme dans la version originale, va essayer de découvrir qui est le coupable. Et en fait, bon, bah, comme je vous l'avais expliqué dans la version originale, bon, bah, là, c'est pareil, c'est plus ou moins copié-collé, hein, avec ambiance très glauque, il pleut très souvent, c'est la nuit, il fait sombre, y a pas de soleil, enfin, bon, on se dit, merde, quoi, c'est comme au Danemark, quoi, tu vois, quoi, bon, c'est la description, en fait, cette enquête, c'est la description de trois mondes différents, à savoir le monde de l'enquête, l'enquêteur, le personnage qui, on va dire, principal, entre guillemets, Sarah Lunt, ou Linden, dans la version américaine, le côté des victimes, c'est-à-dire des parents de la victime, le père, la mère, les frères, le frère et la sœur, qui se demandent comment c'est arrivé, qui font également leur petite enquête de leur côté, et le côté politique, puisqu'il y a également le côté politique, puisqu'il s'avère qu'au fur et à mesure de l'enquête, assez vite au début de l'enquête, on remarque que, eh bien, il y a des personnages politiques qui pourraient, de très haut rang, qui pourraient être impliqués dans ce massacre, et que peut-être il y a d'autres victimes. Bon, j'en dirai pas plus, comme ça, si vous n'avez pas vu la version originale, ben, il n'y a pas de problème. Alors, il faut savoir que l'action est située à Seattle. Donc bon, ils ont pas choisi une ville très lumineuse comme pour être Los Angeles, hein. Seattle, c'est nord-ouest carrément, hein,
Et puis il pleut souvent.
Et il pleut souvent là-bas, quoi, hein, c'est un petit peu au sud du Canada, quoi, tu
vois. Les gens à Seattle, ils sont tellement chiés qu'ils ont eu le temps d'écrire Windows et d'y mettre plein de bugs.
Ah, tu vois. Hein, c'est pour te dire, donc. Alors du côté du casting, c'est pas mal. Mireille Enos, qu'on avait vu dans Big Love avec Bill Paxton, là, tu sais, histoire de mec qui a plusieurs familles, quoi, à la Mormon, quoi. On a également Joel Kinnaman, qui lui est un inconnu, mais c'est normal parce qu'il est suédois, donc c'est sûr qu'on le connaît pas trop. Billy Campbell, lui, on connaît, hein, on l'avait vu dans les 4400.
Et Melrose Place, non?
Aussi, oui, mais enfin bon. Brent Sexton, qu'on avait vu dans Deadwood, Michelle Forbes, qui joue donc le rôle de la maman, hein, ça c'est clair, hein, y a pas de problème, quoi. Callum Keith-Rennie, mais qui n'apparaît qu'au second épisode. Donc les deux premiers épisodes, il y a 13 épisodes dans cette première saison. C'est sur Paris Première à partir de lundi 20h35, donc The Killing, mais la version américaine. Jetez un œil, si vous ne connaissez pas la version danoise, c'est pas mal parce que vous allez être bluffé par le scénario. Là, vraiment, vous allez être bluffé à mon avis parce que c'est vraiment énorme, quoi. C'est très très fort, très fort. Maintenant, vite fait, quelques petits films. Alors, on va éliminer les films qui sont sans rien, mais il y a pas mal de soirées thématiques, on va dire, ou des soirées qui sont consacrées à un même acteur ou à un même réalisateur. Donc déjà ce soir sur Syfy, deux excellents films de Guillermo del Toro. Alors c'est quand même assez étonnant parce que Syfy nous habitue à des grosses bouses, des merdes, des directs ou vidéos
quand ils les font pas exprès eux-mêmes.
Ouais. Et là, bon, ok, c'est carrément deux Guillermo del Toro. On commence par Hellboy ce soir à 20h45. Et surtout, on continue à 22h50 par Les Chines du Diable. Avec Noriega, Paredes et tout. Donc là, bon, bah ok. Là, on dit, pour une fois, on peut dire bravo à Syfy. Donc c'est ce soir. Demain, demain c'est assez marrant parce qu'on va voir deux films d'un même réalisateur, mais d'un sujet complètement différent, qui n'ont vraiment rien à voir et pourtant qui n'ont que 4 ans d'écart. Sur RTL9 demain soir à 20h35, l'excellent film de Philippe Kaufman, L'étoffe des héros, The Right Stuff, avec le casting que maintenant tu ferais 4 films avec, hein, Scott Glenn, Ed Harris, Dennis Quaid, Sam Shepard pour les plus connus,
ouais.
Hein, j'en passais des meilleurs. Et sur Ciné Plus Club, à 22h45 demain, L'insoutenable légèreté de l'être, du même Philippe Kaufman, avec là aussi un casting que tu les prends les quatre et tu pourrais faire un film. Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche, Lena Olin et Derek DeLint. Sinon, on a également demain une thématique sur Ciné Plus Classique, qu'on pourrait être une thématique double, c'est-à-dire même acteur, même réalisateur. Tout d'abord, à 20h40, La Piste de Santa Fe, de Michael Curtis en 1940, avec Errol Flynn, Ronald Reagan et Olivia de Havilland. Et à 22h25, L'Aigle des Mers, Seahawk, du même Michael Curtis, la même année, hein, parce qu'à l'époque, il tournait 2-3 films sans problème, avec Errol Flynn, Brenda Marshall et Claude Rains. Excellent film, hein, c'est un des meilleurs de toute façon avec Errol Flynn, hein, film de pirate, de corsaire et tout quoi. Michael Curtis, j'en ai déjà parlé mais j'en reparle parce que ce mec il est énorme quand même, hein. Il est hongrois au départ, il est né en 1888 et tout, il a fait des films à partir de 1912 jusqu'en 1919 en Hongrie, puis il va en Autriche parce que en 1919 le président de la Hongrie, ou je sais pas si c'est le président, enfin bon, le boss de la Hongrie décide de nationaliser le cinéma.
Ouais, oui, ils ont eu une période communiste.
Donc lui, il se barre carrément, quoi. Il va en Autriche où il tourne de 1919 à 1925, puis il fait une petite année en Allemagne et en 1926, il rallie les États-Unis où il nous fait quelques films dans le style déjà avec Errol Flynn en 1935, Captain Blood, encore avec Errol Flynn en 1936, La Charge de la Brigade Légère. Le fameux Robin des Bois en 1938, la même année, il nous fait un excellent polar qui s'appelle Les Anges aux figures sales. C'est lui qui nous fait Casablanca en 43 avec Bogart. C'est lui qui nous fait Passage to Marseille également avec Bogart en 44. C'est lui qui nous fait, vers la fin de sa vie, il est mort en 62. En 58, comme c'est un réalisateur confirmé et que le premier film de la super grande vedette internationale de la chanson, qu'il faut absolument qu'il fasse du cinéma. On a vu que le premier film c'était pas top et tout quoi, donc on décide de le confier à un réalisateur confirmé, un vieux réalisateur, Michael Curtis. C'est King Creole avec Elvis Presley bien sûr, et il termine avec un western qui est pas dégueulasse du tout en 61, Comanchero. Et c'est quand même le mec qui est fidèle à une boîte, à une maison de production, à un studio de cinéma, la Warner, où il reste de 1926 jusqu'à 1953. C'est pas maintenant que tu verrais des choses comme ça. Lundi,
Clint Eastwood, c'est le vieux de la vieille aussi, mais il a fait toute sa carrière quasiment chez la Warner.
Oui, mais enfin bon, il a fait nettement moins de films. Parce que là, je cite que les films les plus connus, hein, ouais. Vraiment. Lundi, encore une belle thématique de Syfy, mais nous, on aime ça de toute façon, c'est les requins, avec le retour du Shark à Venise.
Oh là là.
Le requin à Venise de Danny Lerner avec Steven Baldwin et Vanessa Johansson. Suivi à 22h30 de Killer Shark de Griff First, qui est tout récent, qui date de cette année, avec Choupette, Christy Swanson,
le retour
original. également avec D.B. Sweeney, alias Pinocchio, et avec Jeff Chase.
Et nous nous ailerons de requins.
Mardi sur Direct 8, et ben encore une petite, deux films du même réalisateur. Alors là, bon, bah, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire. Bon, j'ai pas vu le premier qui passe, donc je ne dirai pas plus, mais je me rappelle de ta critique. Donc c'est Blueberry, l'expérience secrète à 20h35 sur Direct 8 de Yann Kounen.
Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de substances prohibées.
Yes.
ou du mescal.
Oui, quoique Doberman à 22h25, il y avait également certainement des substances prohibées.
Certainement.
Peut-être pas les mêmes.
Ça expliquerait certaines choses.
Oui, mais peut-être pas les mêmes, à mon avis. Hein, donc ça c'est mardi prochain sur Direct 8, spécial Yann Kounen. Mercredi, à vous signaler un film complètement improbable, mais qui aurait une bonne place dans l'extrême cinéma. Je rappelle que c'est le mois prochain, l'extrême cinéma. Hein.
Oui.
Pratiquement jour pour jour, hein, ça va être le 18 et le 19, me semble-t-il.
T'as intérêt à me ramener quelque chose, Thomas.
Et un film donc qui aurait bien sa place, c'est sur FX mardi prochain à 21h. Fille pour le bourreau de Massimo Pupillo, un film italien d'horreur de 1965, avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, enfin c'est Mickey Arditi, qui était le mec à Jane Mansfield, et donc le papa d'Olivia Benson, de Mariska Arditi.
D'accord.
Le papa, eh oui, ex Mister Univers et tout, enfin bon, bref quoi. Jeudi sur M6, alors deux films. Le premier, ça aurait pu être une réussite assez magnifique si on avait réussi à transposer un petit peu l'esprit du bouquin, quoique c'est, je commence rarement à lire un bouquin que je n'arrive pas à terminer. Celui-là, je suis pas arrivé à le terminer tellement j'étais dégoûté de la vie. Et que je me disais, putain, c'est vraiment un gros con ce mec, quoi. Et d'ailleurs, ses dires et son état d'esprit l'ont confirmé par la suite. Ce mec est un gros con, un gros connard. Je n'en dirai pas plus, quoi. Babylone AD, donc, de Matteo Kassovitz.
Ah,
oui. De 2008. Avec, donc, de Dantec, hein. Donc, voilà, c'est là le mec dont je parle. Qui nous avait fait d'excellents bouquins au départ et tout. Et puis, bon, mais Babylone AD, ça... C'est du porte-nawak complet, vraiment porte-nawak.
Pourquoi parce que moi j'ai pas lu ni le film ni le bouquin. Donc
Non, mais tu comprends rien quoi. Tu comprends plus rien. Mais il y a un bout de moment, il avait déjà amorcé la tendance dans son bouquin précédent. Mais bon, tu arrivais encore un petit peu à suivre, hein, avec ces histoires d'intelligence artificielle et tout ça. Enfin bon, transposé. Enfin bon, c'était déjà un petit peu tiré par les cheveux, mais t'arrivais à suivre parce qu'il y avait une histoire de serial killer, de complot, de secte. Qui était assez bien ficelé, on va dire, mais dans Babylone AD, je sais pas ce qu'il a pris, mais bon, ça l'a pas fait du tout, et il n'a pas participé au scénario, ils s'y sont mis à trois quand même pour faire le scénario de ce film, avec Vin Diesel, avec un casting qui est quand même vachement costaud, quoi.
Vin Diesel, scénario de Vin Diesel, mais, tu m'étonnes.
Non, c'est pas lui qui a écrit.
Avec Vin Diesel, Mélanie Thierry, Michel Yeo, Lambert Wilson, Gérard Depardieu, Mark Strong... Tu te dis, bon, bah ok, mais non, désolé, j'irai pas voir ce film, que le bouquin, il est... non, c'est pas possible.
Non, mais...
C'est pas possible.
Non, mais je te rassure, même Kassovitz a dit que c'était une merde et qu'il s'était compromis et que les producteurs avaient changé tout ce qui faisait l'essence du projet à la base. Donc, il a dit, même lui, il peste dessus. Hein, donc.
Oui, mais à mon avis, le projet est infilmable. Quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est que, bon, bah, si tu suis un petit peu le bouquin... tu te dis c'est pas possible. Bon, on a repris juste le fil rouge principal, à savoir la nana avec son enfant qui va être la sauveuse de l'humanité, quoi. Globalement c'est ça, quoi. Mais bon, tout autour, quoi, c'est oula, bravo les gars, quoi. Par contre, juste après, alors là, un film qu'on a programmé, qu'on a vu pratiquement, je crois, les trois, hein, qui est un petit bijou. C'est un premier film d'un réalisateur irlandais en 2008, In Bruges. Avec le trio magique.
Xavier l'a pas vu, je crois.
Le trio magique, Colin Farrell, Ralph Fiennes, Brandon Gleeson, un petit bijou de comédie noire, mais absolument à voir.
Voilà, donc en français, Bon baiser de Bruges.
Ouais, en français, bon, le titre français, bon, laisse tomber, parce que bon, ça fait vraiment film des années 60.
Mais c'est clair que c'est pas un film qui donne envie d'aller là-bas.
Ah si, moi ça m'a vachement donné envie d'aller là-bas. Ah vraiment, vraiment.
Ah parce que ouais, bon.
Ah ben, quand ils vont dans les musées, dans l'église et tout, moi j'ai envie de voir ça en vrai. Il y a pas de problème, j'ai envie d'y aller, hein. Et bon, Bruges c'est quand même la petite Venise du Nord.
Oui, tout à fait.
Alors donc Ça va, ça va.
Ouais, et puis fais gaffe, Thomas. Hein, on a quand même des collaborateurs qui sont belges.
Ouais. Et
non, moi je parle que du film. Hein. Moi je dis le film. Dans le film, les personnages ils se font chier grave et ils comprennent pas pourquoi on les a envoyés là-bas.
Non, mais Brendan Gleeson lui se fait pas chier parce que lui justement il dit oui, profitons-en.
Oui, mais lui c'est le côté culturel. Alors Colin Farrell, lui il s'emmerde et il veut boire des coups lui.
C'est normal. C'est pas là. C'est également un conflit de génération quoi. De toute façon quoi. Bon, on va pas quand même dévoiler tout le film quoi. Alors vendredi on termine.
À tes souhaits.
Avec merci avec tout d'abord sur RTL dans la case cinéma asiatique. Il l'avait déjà passé mais celui-là il est vraiment très très bien, c'est un Chang-Che de 67, un seul bras les tueurs.
Ah ben pff,
hein.
Ouais.
C'est le
oui
c'est
voilà.
C'est le film de Jimmy Wang Yu avec Jimmy Wang Yu. De toute façon, bon, il en a fait d'autres qui sont
donc
vraiment bien.
C'est le premier épisode de la trilogie du sabre à manchot.
Voilà, le sabre à manchot
qui a
voilà.
été remaké dans The Blade avec Park Soo-Yark.
Voilà, voilà. Avec Jimmy Wang Yu aussi et avec Ciao Ciao, l'homme qui dit au revoir deux fois. Sur Sinon et Frisson, encore une petite thématique super-héros avec deux boosts de super-héros. Tout d'abord à 21h, Daredevil, bien qu'il ait Colin Farrell.
Je suis passé sur le retard pour la comprendre la vanne, hein, je suis nul, mais j'étais arrivé en fin de Home de France.
Ciao ciao. Ouais.
Tout d'abord Daredevil avec Colin Farrell en méchant, mais bon, même là ça le fait pas quoi. Et à 22h45, X-Men Origins Wolverine.
Ouf. Oh, c'est du lourd hein.
Ah ouais, c'est du lourd hein, c'est
dans la bouse
lourde.
Lourde.
Lourde. Et par contre
c'est pour ça qu'on a inventé la TNT.
Et par contre sur Polar, eh bien également une soirée thématique avec collaboration Noiret-Tavernier pour deux films. Tout d'abord, Le Juge et l'Assassin à 21h.
Ouais.
Hein, alors, ça vaut surtout pour la confrontation entre Noiret, le juge, et Galabru, l'assassin.
Où Galabru c'est énorme.
Galabru fait une composition, je crois qu'il avait eu un César, un truc
oui,
comme
oui,
ça à l'époque.
Tout à fait, oui,
parce
oui.
que Galabru, on a l'habitude de le voir dans les bidas, dans je sais pas quoi, bon, dans des rôles comiques. Et là, c'est pas comique du tout, c'est vraiment hyper dramatique.
Et c'est une confrontation, c'est une gardave.
Ah, c'est très bon, très très bon. Hein, donc avec également Elisabeth Huppert et à 23h05, l'horloger de Saint-Paul, du même Tavernier avec Noiret, mais tourné 2 ans plus tôt en 1973. Il me reste juste le temps, bah après.
De parler du match.
Ouais, un petit peu, ouais. On peut se le faire tous les deux ou tous les trois, là, sans problème, quoi.
Ah bah non, moi je l'ai pas vu, je préparais l'émission. Mais bon, ceci dit.
Bah moi aussi je préparais l'émission.
Moi je veux laisser des Gallois.
Non, mais moi,
ah bon.
C'était donc la partie sportive du supplément week-end. Je ne suis pas sur le bon truc là, je sais pas ce qui s'est passé.
Ouais. Alors moi je peux te dire que demain dans les canards gallois, même dans les canards britanniques, ce qu'il va y avoir en première page et tout quoi, c'est le fait que l'arbitre eh bien soit un petit peu français quand même quoi, tu vois.
Ah
il
bon,
est
là,
irlandais.
Là.
Ah, oui oui, monsieur oui Roland oui. Il est irlandais parce qu'il est français d'origine, mais il est irlandais parce que il est allé là-bas se marier avec une irlandaise.
Ah là 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 là.
Et je sais pas si t'as entendu, puisqu'on entendait bien les commentaires hein, quand il est au cours du match. Il parle très bien français le mec.
D'accord.
Il a un petit accent, mais il parle très bien français. C'est normal hein, de toute façon. Donc je suis sûr que demain dans les journaux, ça va y aller quoi. L'arbitre,
mais surtout
avec les deux cartons rouges qu'il a donné quoi, c'est sûr que ça va charcler.
Il y en a eu un.
Et en fin de partie, hein, deux.
Ah bon ?
Oui, autant que je me souviens. Hein.
Petit plantage donc de Régis, c'est pour ça que j'ai dû relancer le jingle sur l'autre piste, Thomas.
C'était mérité ou pas le carton rouge ? Pardon.
Non, mais après, je relance mes génériques et on fait le résumé fait du sport. Thomas, pouvez-vous nous faire le résumé du match ? Sinon, c'est pas drôle.
Oui, bien
allez-y,
sûr.
Allez-y.
Alors, il était fortement en question tu fais le résumé de l'émission, c'est ça ?
Oui, là de l'émission, ensuite je remets le jingle et on fait le résumé du match.
Alors, il était fortement question du Royaume de Danemark aujourd'hui. Nous avions des gros seins et des gros pieds, une scène d'amour avec de la langue, un bouffon gris très embêtant, une guêpe, des bleu bits, un méchant tuné petite pété en premier, une mini Cooper en ligne claire, des ratonnades, du pas fast et du pas furious, une lettre de guerre, des films sans rien éliminés, des requins, le retour de Choupette et un homme qui dit au revoir deux fois. Ciao ciao.
Ciao ciao, merci, bye bye, merci de nous avoir écoutés sur le supplément week-end. Réécoutez cette émission en entier et son intégralité, ainsi que les archives et nos chroniques écrites, comme par exemple récemment Kill Bobby Z et Enma, donc le premier tome de cette série de manga, sur notre site supplementweekend.fr, supplementweekend.fr, sans accent ni tiré, vous allez voir, c'est d'enfer.
Hey, bon slogan.
Oui, je sais, et c'est les 30 ans de Radio FMR. De suite, nous entamons le deuxième générique de fin. J'attends que du sport ait mis son CD, voilà.
Ça fait penser, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le générique de ça, c'est du sport.
Dus ?
Vu l'absence de réaction, je pense que ce sera pas pour cette fois.
puisque j'ai dit, voilà, on va le faire comme ça. Du sport, Thomas, il y en a qui ont préparé cette émission et d'autres qui les auditeurs qui sont restés endormis. Est-ce que vous pouvez me faire le résumé de ce match de rugby? Moi, j'ai juste vu passer devant mon boucher favori, il avait mis la télé sur le trottoir, il avait amené son salon, ses meubles et tout.
Eh bien, nous avions des Bleus qui étaient très nerveux, des Gallois qui ne l'étaient pas moins, qui se sont retrouvés à 14 contre 15 dès le premier quart d'heure. Suite à un carton rouge apparemment mérité.
Oui, dans le il aurait pu être un peu plus clément quoi, mais bon, il est relativement justifié quand même quoi. Il y a rien à dire. Hein,
ensuite, des Gallois qui se sont lamentablement chiés pour transformer les pénalités entre les poteaux.
Et oui, ben c'est le tournant du match hein, de toute façon. Hein, voilà, le manque de réussite des Gallois de toute façon quoi.
Et les Français qui passent en finale après seulement avoir réussi 3 pénalités. Score final 9-8.
Magnifique. Très beau
et
match.
L'équipe est en train de titrer la victoire, la finale en souffrant. Je voudrais une note technique donc sur ce titre, la finale en souffrant.
Ah oui, parce que c'est une allusion à la victoire en chantant de Jean-Jacques Hano. Ah, sur combien? 10?
Ouais.
La victoire en souffrant.
Oh, 3.
Ouais, moi je dirais 5.
Bon, d'accord. On verra si dans ce rugby ils vont peut-être faire mieux, que sais-je. Sur l'ensemble du match, la coupure publicitaire comme d'habitude pendant les hymnes, le commentaire sportif de la chaîne de télévision était à ce qui paraît toujours aussi...
Ah ouais, je croyais être débarrassé de Christian Jean-Pierre au foot, mais
il revient au rugby.
Il rebondit tel un ballon ovale pour commenter les matchs de rugby.
C'est-à-dire de travers. Rebondit de travers. Tu peux pas prévoir la trajectoire.
Il a fait un en avant à chaque fois.
On aura testé.
Et il était bien sur ses appuis en tout cas. Solide.
Allez, fini de déconner, du sport, 13h54, donc du coup...
Bah ouais, passe un morceau de musique là et puis on...
Allez, bah voilà, on fait la transition.
Il est calé, tu vas voir.
Ah c'est con, il a gagné l'équipe.